Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on a un trio qui a énormément de peps. Je vous fais la présentation par ordre alphabétique. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation.
Bonsoir.
Bonsoir. Tom Conan, en plus c'est par ordre du studio, artiste, essayiste, auteur de Radical, publié chez Albin Michel. Bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, on la connaît bien, Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir.
Bonsoir cher Philippe, bonsoir à tous.
Et évidemment, beaucoup de débats. Alors à 17h30, on va parler d'un drame. Calais, l'Europe est-elle encore capable de gérer la crise migratoire? Vous avez vu le drame, au moins 27 morts parmi les migrants. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux à 18h30, notre grand débat. C'était l'info forte de la mi-journée, un tout début d'après-midi. On a eu la conférence de presse d'Olivier Véran, Jérôme Salomon et Jean-Michel Blanquer sur les nouvelles mesures Covid. Et pour vous? Oui, et pour vous, est-ce que les nouvelles mesures anti-Covid, dans ce domaine, le gouvernement a fait les bons choix? Vous êtes pour le moment très largement majoritaire à dire non, comme pour le premier sondage. Vous voulez réagir, le 0826-300-300. Ça va les vraies voix?
Ça va très bien, Philippe. Père.
Alors, vous pouvez constater, parce que dans les vraies voix, on est solidaires, et alors, que cette chère Trina est restée avec nous parce qu'elle nous a dit une chose, dès qu'on a fini de teaser les vraies voix. Oh, c'est l'anniversaire de mon papa.
Oui.
Et j'ai rendu l'antenne avant. Alors évidemment, voilà. J'ai le plaisir de connaître Dominique. Je l'embrasse et voilà. Je lui souhaite bon anniversaire. Je vous ai pris de vitesse, ma chère Trina.
Oui, alors bon anniversaire papa, je t'aime très très fort. Voilà, il fallait que je le fasse. C'était quand même mignon. Très important. Voilà.
Et je tiens à dire à Dominique que vous avez une fille extraordinaire. Je sais, tout le monde lui dit et lui répète d'ailleurs.
On le confirme.
Tout le monde le confirme. Alors, excellent anniversaire, mon cher Dominique. Mais je sais que où vous vivez, c'est à la montagne. Il ne doit pas faire très chaud en ce
Annecy,
moment.
Ah, si, ouais, non.
Écoutez bien, Rémi André, mon petit doigt me dit qu'il va falloir mettre une petite laine.
Oui, en tout cas, merci.
Eh bien, c'est tout à fait normal. Ça va, les vraies voix, en forme?
Pas parfait. Hein.
Est-ce qu'à votre avis, j'ai envie de pousser un énorme coup de cœur ou de pousser un énorme coup de gueule?
Coup de gueule, là, ce soir.
Ah oui.
Vu le regard, là.
Vous avez écouté Trina et Alexandre
Deloban. Regard menaçant, là.
Ah oui, j'ai envie de pousser un énorme coup de gueule. Oui, oui, parce que Interpol, vous savez, la police internationale, a un nouveau président. C'est un général émirati qui s'appelle Ahmed Nasser Al-Raisi. Bon, il est juste patron mondial de la police, mais c'est un poste honorifique. Mais c'est pas lui le vrai patron, mais c'est quand même celui qui représente Interpol. Et rien de grave pour un patron de la police. Il est juste poursuivi pour torture dans deux pays, la France et la Turquie. Et a priori, on va dire que c'est plus une police particulièrement musclé, qu'une police, comme on dit, je mettrai 3000 guillemets parce que c'est une expression très française, républicaine, et voir que quelqu'un qui est soupçonné de torture est nommé par la communauté internationale patron d'Interpol, c'est comme si demain on nommait Pablo Escobar à la tête de la mission antidrogue de l'ONU ou Marc Dutroux à la tête de la commission de lutte contre la pédophilie. Et quand j'ai vu une chose pareille, une fois de plus, je suis tombé de l'armoire. Qu'en pensez-vous, les vraies voix? Tiens, Tom Conan, je vous vois me regarder.
Non, mais c'est fou, enfin, c'est un fait absolument édifiant, en effet. J'aimerais savoir quels sont ces actes de torture qui ont été perpétrés, est-ce qu'il a été condamné de manière définitive, est-ce qu'il y a eu un appel, quelles sont les conditions.
C'est pas le plus grand état de droit qui existe, les Émirats arabes unis.
Oui, non, mais j'entends bien
ce que je veux dire.
Mais c'est que ça paraît, oui, ça paraît totalement aberrant si les faits sont en effet avérés, hein, mais moi je ne demande qu'à voir. Hein, mais ça paraît quand même dingue qu'il n'y ait pas quand même des éléments d'analyse et de, comment dire, de data room, comme on dit dans les cabinets d'avocats, où on regarde toutes les informations sur la personne pour voir s'il ne peut pas y avoir un scandale ensuite qui pourrait survenir.
Lydia Guirous.
Je connais pas le fond du dossier, mais j'ai vu passer cette information et comme vous, j'ai été assez interpellée, voire scandalisée. C'est quand même spécial d'avoir le patron d'Interpol qui a ce type
De pédigré.
De pédigré, oui. Après, est-ce que c'est avéré ou pas? J'avoue que
j'ai pas
ouvert.
Il y a comme deux plaintes contre lui et beaucoup de gens et des journaux de droite comme de gauche disent qu'il est pour le moins sulfureux.
Bon, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellée et je me suis dit quand même, c'est assez étrange d'avoir un patron d'Interpol qui a ce type potentiellement de pédigré, parce que c'est pas parce qu'il y a des plaintes qu'évidemment il y a une culpabilité. J'essaye de rester toujours sur cette ligne-là, Mais c'est spécial. Mais
avant de les lire, même s'il y a... Alors, la présomption d'innocence, c'est... pas franco-français, mais quand même un peu. Mmh. Quand on a des doutes sur une personnalité de ce niveau, vous me passerez l'expression, il y a suffisamment de candidats,
évidemment.
On s'abstient. Mmh. Et qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Audugé, de mon indignation?
Mais je dirais que je rejoindrai un peu mes petits camarades, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le dossier, enfin moi je ne connais pas le dossier, c'est vrai qu'on a un peu... c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des plaintes, on ne sait pas comment ça a été déposé, on ne sait pas quels sont les éléments de preuve, on ne sait pas si l'affaire a été traitée en justice. Et puis à côté de ça, on a les médias qui vont prendre position de droite comme de gauche. Est-ce que c'est vraiment un élément de preuve?
Enfin, excusez-moi, quand vous voyez l'Arabie Saoudite qui est nommée à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, ça ne vous pose pas de problème?
Non, mais moi,
pays qui lapide les femmes adultères, qui pend les homosexuels, qui décapite en public les gens pour, qui sont même parfois innocents, une femme immigrée violée qui tue le type qui la viole, son propriétaire, on va dire ça comme ça, en Arabie Saoudite. Moi, l'Arabie Saoudite à la Commission des droits de l'homme, désolé, ça me donne envie de vomir.
Après, je pense que sur le dossier Interpol, comme disait Lydia, on est interpellé d'une certaine façon. Au-delà de la blague, non, fallait vraiment la faire. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que sur effectivement ce genre de problématique, évidemment que c'est choquant d'un point de vue citoyen ou d'un point de vue journalistique, par exemple, ou d'un point de vue moral. Mais je pense tout de même que ce genre d'appartenance à des commissions qui sont des commissions interétatiques ou des commissions qui sont chapeautées par les organisations étatiques d'une façon ou d'une autre, il y a d'autres intérêts qui interviennent. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques, il y a des intérêts militaires, paramilitaires, etc., qui peuvent aussi être dans la balance. Donc en fait, à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place, enfin moi, c'est pas forcément ce que je fais, mais de certains dirigeants, y compris au niveau des instances de l'Union européenne, le cas échéant par exemple, pour voir en fait si effectivement dans la balance, il y a plutôt intérêt à pousser une personne ou un État, malgré ou nonobstant, on pourrait dire, l'ensemble des travers et des turpitudes qu'on peut lui reprocher.
C'est la réelle, le triomphe de la réelle politique, comme dirait Tom
Collin. La politique, c'est la réelle politique, en fait. C'est presque un synonyme. Sinon, c'est pas de la politique. C'est ce qu'on appelle le politique. C'est en gros de la théorie. Il y a plein de gens qui font des livres, d'ailleurs, comme ça, là-dessus, toute leur vie. Mais c'est pas la politique. On parle de la politique. Pour moi, le politique, c'est une expression que je récuse, d'ailleurs. C'est un truc de chercheur et de branleur.
Moi, je trouve que... Carrément. Moi, je trouve que là où je rejoins Tom, c'est que la vraie question, c'est quel était le processus de sélection. Et il y a quand même un défaut de transparence.
C'est une élection, hein, en clair.
Ah ouais, mais bon, je veux dire, c'est bien. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un minimum de transparence pour qu'on puisse justement comprendre. Et
non, mais
effectivement...
qu'un type qui soit soupçonné de détention arbitraire d'opposants politiques, il y a plusieurs plaintes contre lui qui soient nommées comme patron d'Interpol,
mais bien
ça
sûr,
pose
Philippe,
quand même problème.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que tout le monde est soumis à tout un ensemble de plaintes et qu'on ne fait que développer des réactions émotionnelles sur à peu près tous les sujets. Donc à un moment, on en revient, quand on a à peu près l'esprit sain, à se dire comment est-ce possible. Si c'est vrai, s'il y a doute, comment est-ce possible? C'est pas possible.
Je pense, et je rejoins Tom Cannon là-dessus, c'est en fait derrière, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup d'enjeux, je pense, géopolitiques en fait, et c'est comme ça que les choses se font et que ces élections s'organisent. On pouvait être dans un autre domaine, hein, mais on pouvait être très surpris de voir les Jeux Olympiques il y a quelques années se dérouler. C'était au Qatar ou en Arabie Saoudite,
à Pékin.
Il y avait une grande compétition internationale, c'était à Dubaï,
sport,
ou je sais plus trop où, enfin bref, et on voyait
il y a eu les championnats du monde de handball au Qatar, ça oui, de mémoire, et il y a la coupe du monde dans pile un an
qui va venir.
Il y avait une compétition internationale avec plusieurs épreuves et c'était dans un pays extrêmement chaud, et on voyait les coureurs qui souffraient et qui arrêtaient parce que les températures étaient c'était au Qatar,
championnat du monde d'athlétisme,
et tout le monde s'était étonné de dire mais comment on a pu faire les championnats du monde d'athlétisme au Qatar avec les températures qu'il y a, avec les conditions qui sont absolument pas optimales, mais parce que derrière, c'est de la diplomatie, c'est des enjeux financiers, c'est de la géostratégie.
C'est vrai, pour amener dans ce sens-là, en fait, dans ce que dit Lilia, c'est que c'est vrai qu'il y a aussi une dimension même qui se veut un peu prophétique. D'ailleurs, c'est comme par exemple des textes comme la charte de l'Union européenne, vous savez, qui est une proclamation de droit dans l'Union européenne qui s'applique à tous les États qui sont membres de l'Union européenne, qui ressemble beaucoup à des déclarations de droits qu'on a déjà, nous, dans la déclaration des droits de l'homme citoyen, etc. Mais pour d'autres États, par contre, qui sont des textes qui ont une valeur originale, si j'ose dire. Mais en fait, pourquoi cette vertu prophétique? Parce que quand pas mal de pays ont rejoint l'Union européenne, par exemple en 2004, il y a eu 10 pays qui sont arrivés, pays d'Europe de l'Est notamment, certains, en fait, ne respectaient pas la totalité de ces droits. Pour autant, ils sont bien rentrés dans l'Union européenne. peut-être parce que c'était choquant. Non, parce que c'était aussi dans l'objectif de les faire respecter à terme tous ces droits. Donc, peut-être que le but, c'est peut-être aussi ça, faire évoluer les États de façon à ce qu'une fois ils sont membres, qu'ils soient membres, qu'ils puissent effectivement se conformer. Non, mais c'est sans doute aussi stratégique, je veux dire.
On a fait les JO à Pékin en 2008, c'est pas devenu une démocratie entre-temps, pas plus que l'Allemagne en 1936, enfin si, mais au nom d'une guerre, au prix d'une guerre de 40 millions de morts. À 18h30, notre premier grand débat. Quelle est l'Europe, est-elle encore capable de gérer la crise migratoire? Eh bien, vous êtes 94,9% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Sophie Audugé, Lydia Guirouz, Tom Conan. C'est l'heure du tour de table de l'actualité.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Ah, ça rappelle de grands souvenirs, France Gall. Et on commence avec vous, ma chère Sophie. Vous voulez parler du retour à l'instruction nationale au lieu de l'éducation nationale?
Oui.
Un temps que les moins de 1 an ne peuvent pas avoir connu.
De bien longtemps. Non, je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet puisque plusieurs candidats ou groupes politiques ont commencé à évoquer le sujet. Donc bon, ça sera dans certains programmes, on l'imagine bien. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Hein. Chez SOS Éducation, nous, on a toujours insisté sur la maîtrise des connaissances fondamentales du lire, écrire, compter. C'est vrai que l'instruction nationale avait en charge de faire acquérir aux enfants le lire, écrire, compter, travailler beaucoup sur l'expression orale, ce qui permettait effectivement d'avoir des jeunes qui, même quand ils sortaient tôt du système scolaire, avaient une parfaite maîtrise de la langue et pouvaient donc se réaliser dans le monde professionnel tout à fait, en tous les cas, sans avoir de contraintes par rapport à ces questions-là. Le délitement de l'école actuelle pose énormément de problèmes à tous. Hein. On voit bien qu'il y a une baisse de niveau général que nous, on a dénoncé depuis bien longtemps, hein, depuis plusieurs années, voire plus de 15 ans. Le problème, c'est que ça ne se voyait pas encore. Aujourd'hui, tout le monde commence à paniquer. Parce qu'évidemment, dans les entreprises, bien, on commence à se rendre compte que ces jeunes qui arrivent ne savent pas formuler un texte simple. Enfin, je veux dire, voilà, les courriers, c'est sont bourrés de fautes. Les mails, pareil. L'expression à l'oral, c'est pas beaucoup mieux. Et on se rend compte également, en plus, avec des jeunes qui n'ont pas acquis des mécanismes de compréhension, notamment de résolution de problèmes, une capacité d'abstraction, une capacité d'analyse, etc. Et du coup, on se dit, mais mince, l'école fait pas son travail. Alors, on n'a qu'à revenir à l'instruction. Alors oui, revenons à l'instruction nationale. Pourquoi ? Parce que l'école a cru qu'elle pouvait se charger de l'éducation des enfants, qu'on a confondu l'éducation des enfants avec de l'endoctrinement, qu'aujourd'hui, dans l'école, on a des manuels qui sont des purs produits d'endoctrinement, qu'on passe à côté de l'essentiel, qu'on ne fournit pas aux jeunes les moyens de penser le monde. Et c'est très clair que l'éducation nationale, c'est un échec.
Lydia Guirouz, c'est vrai que les parents, ils éduquent et l'école, elle instruit théoriquement.
Ah bah évidemment, et moi je suis tout à fait d'accord et je partage les propos qui ont été tenus et puis l'analyse surtout qui vient d'être développée. Je suis pour un retour. Jean-Michel Blanquer parle souvent de l'école de la confiance. Moi, je voudrais qu'on aille vers une école de l'exigence. Et je trouve que on a une école aujourd'hui qui doit tout faire en quelque sorte. Donc évidemment instruire, mais elle n'y arrive pas tout à fait. Éduquer pour donner des bases d'éducation que les parents ne donnent pas, parfois faire la police aussi et faire du social. J'ai des amis qui ont été dans des écoles en banlieue, qui en sont sortis lessivés, qui étaient heureux au bout de 20 ans de carrière de pouvoir enfin revenir dans un établissement où ils pouvaient étudier Le Petit Prince en 6e, ce qui n'était absolument pas le cas avec des 3e en banlieue, tout simplement parce que c'était trop difficile, parce qu'ils pouvaient pas se concentrer, parce qu'ils ne comprenaient pas en lisant Le Petit Prince en 3e, donc vous imaginez quand même le niveau de lacune. Des parents qui...
On lisait à l'école primaire. Hein,
mais bien sûr, des parents qui demandent des rendez-vous en disant mais apprenez-moi à gérer mon enfant, comment je peux faire pour qu'il... Enfin, des trucs qui semblent surréalistes, mais c'est vrai qu'on a on a perdu le sens de l'exigence. On a l'impression qu'on ne peut plus rien exiger de l'enfant. On n'a plus le droit de noter les enfants. C'était les fameuses réformes, je crois, de Najat Vallaud-Belkacem, où il faut mettre des sourires et plus des notes de 1 à 20, parce que ça serait humiliant. Sauf que tout au long de la vie, une fois qu'on est sorti du système scolaire bisounours qu'ils veulent nous construire, on est noté, on est classé. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, professionnelle. Moi, j'ai donné des cours l'année dernière dans le supérieur. Je suis tombée de ma chaise. Je me suis retrouvée face à des élèves qui avaient 21, 22 ans. Je vous assure, hein, le premier jour, donc j'ai posé quelques questions, mais de très basiques pour savoir quel était le niveau. C'était la culture générale. Nous sommes dans quelle république ? Bah, la première, madame.
Ah
bon,
oui,
très bien.
Ça nous rajeunit pas.
Est-ce que vous pouvez
Elle
me citer,
dure longtemps. Hein.
Est-ce que vous pouvez me citer une femme politique qui vient d'entrer au Panthéon ? Je pensais à Simone Veil. Donc ils ne le savaient pas. Et je leur dis, est-ce que Simone Veil, ça vous dit quelque chose ? Ils ne le savaient toujours pas. Et j'aurais montré le
vous
visage.
Vous leur avez parlé d'Austerlitz, ils vous l'ont dit, c'est une gare.
J'ai montré le visage de Simone Veil. Non, mais devinez ce qu'on m'a dit lorsque j'ai montré le visage de Simone Veil sur mon écran.
Non.
Ah, bah oui, mais il y a sa tête sur des sacs, madame. Et la fameuse expression, bah oui, ils avaient vu ça sur un sac, sur un sac, un tote bag, les sacs en tissu avec Simone Veil, merci madame. Voilà, c'était ça, Simone Veil pour eux. C'était surréaliste. Ouais. Et puis cette façon de parler, pour revenir sur le langage, avec des deux bases, impossibilité de formuler.
Je suis d'accord globalement sur l'idée de l'exigence.
Et comme on est vraiment en retard, vous allez rebondir en même temps sur votre tour de table de l'actualité qui rejoint l'éducation aussi.
Maintenant, tout de suite ?
Oui.
Exercice de style.
Bon. Sans transition dès lors. Moi je voulais parler
des démissions massives dans l'éducation nationale.
Une sorte de remixage que je vais faire en direct. Non mais en gros, ce que je voulais dire effectivement, et c'est un peu
le
prolongement de tout ça, c'est qu'il y a des chiffres qui sont tombés, alors en fait qui ont été réétudiés récemment, même s'il date de 2018, un article du Monde de lundi qui a été pas mal repris cette semaine au sujet des démissions dans l'éducation nationale. Et ça m'a paru assez intéressant. J'avais déjà entendu parler de cette thématique-là, mais là, j'ai vraiment regardé de plus près. Effectivement, c'est édifiant, puisqu'en 2012, il y avait 400 enseignants en valeur absolue qui avaient quitté l'éducation nationale. Et en 2018, ça passe à quasiment 1500. Donc, il y a vraiment un plus d'un triplement. Alors, évidemment, en proportion, c'est pas grand-chose, puisqu'il y a plus de 800 000 enseignants en France, à l'éducation nationale. Donc, effectivement, on peut se dire que quelque part, ça reste pas grand-chose. Mais la dynamique est quand même celle-ci. On sent qu'il y a une dynamique négative qui est représentée par ces chiffres-là, par cette proportion toujours plus grande de personnes. En plus, là, c'est un écart entre 5-6 années seulement. Donc, on peut imaginer potentiellement que dans 5, 10, 15 ans, ces chiffres pourraient être encore plus importants. Après, les causes sont pas forcément simples à élucider. Alors, il y a la question de leur formation, la question de la rémunération, qui revient souvent, sur lesquelles les gouvernements ont fait quand même des efforts. Mais malgré tout, effectivement, ça reste quand même difficile. Il y a aussi la modification du système de formation qui a été faite et qui semblerait être plutôt mauvaise par Sarkozy en 2011, qui avait obligé à faire aux enseignants de faire un master avant de pouvoir passer les concours.
Oui,
alors clairement, la licence pouvait suffire. Donc évidemment, ça avait fait s'effondrer le nombre de candidats au CAPES, notamment.
Enfin, je vous rappeler, à mon époque, ça fait un peu ancêtre de dire ça, pour être instituteur ou institutrice, on disait pas professeur des écoles, le bac suffisait.
Ouais.
Oui, mais le bac avait peut-être une autre valeur. On passait le bac, on savait écrire.
C'est ça.
Après, il y a deux sujets moi, qui m'ont paru les plus intéressants.
Oui,
mes cours. Le premier point, c'est notamment la différence, un peu pour, comme disait Lisa tout à l'heure, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre, disons, ce qu'on a à l'esprit, enfin ce que les profs ont à l'esprit par hypothèse, et ensuite la réalité. Il peut y avoir donc là une grande chute, une déception. Alors, en l'occurrence, il s'agit pour les profs professionnels, si j'ose dire, de la différence qu'il peut y avoir entre des gens, par exemple, qui sont agrégés d'histoire, qui ont un haut niveau, qui peuvent éventuellement faire de la recherche, faire des essais à côté, et se retrouver avec des gens qui sont un peu nuls, pour le dire simplement, ou qui sont tellement loin, disons, d'un niveau minimal que ces profs savent très bien qu'ils pourront jamais, entre guillemets, exceller, et donc, eux, ils pourront pas non plus prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et le deuxième élément, c'est après tout simplement l'usure. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de profs, notamment dans le secondaire, beaucoup moins dans le supérieur, qui effectivement étaient épuisés, parfois à 40 ans, 45 ans, donc pas forcément après tant d'années de travail que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce secteur et qui, je trouve, est assez inquiétant.
Alors, en 30 secondes, Sophie Audugé, en 30 secondes, Lydia Guirous.
Bon, alors, en 30 secondes, c'est pas possible, Philippe, de toute façon. Mais
25 secondes.
La question de la formation des profs, de toute façon, la situation qui est celle d'aujourd'hui, on va être très clair, à moins de renverser la table, on ne s'en sortira pas. Je veux dire, l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas une école de la confiance. Dès lors où, il n'y a pas très longtemps, on a interdit l'instruction en famille, c'est-à-dire le libre choix des parents de choisir le mode d'instruction qui allait pour leur enfant, alors que c'était le corollaire, la liberté d'enseignement. Aujourd'hui, il y a un énorme problème de recrutement parce qu'on demande aux profs de tout faire, qu'ils ne sont pas formés pour ça et qu'ils ne peuvent pas faire avancer les élèves. Ça va trop vite.
Je pense qu'on a compris. Oui, évidemment, il y a un problème de recrutement et le niveau même du recrutement s'effondre parce qu'on a tellement besoin de professeurs qu'on recrute un peu parfois n'importe qui. Et il y a tellement d'exemples de copies. Vous voyez même les remarques des professeurs qui sont truffées de fautes d'orthographe. Ça, c'est consternant. Et j'ai eu tellement de témoignages de formateurs, de professeurs qui étaient très alarmants. Et je crois qu'en fait, dans les années à venir, on n'arrivera pas à renverser la table, malheureusement, et on va aller vers un système à double vitesse avec les parents qui pourront mettre des enfants dans des établissements privilégiés, chers, et les autres qui vont se retrouver avec une école low cost.
Voilà. Tout de suite, le premier débat. Quelle est l'Europe ? Est-elle encore capable de gérer la crise migratoire ? Vous êtes 94,4% à dire non. On se retrouve tout de suite pour en débattre avec Jean-Christophe Combes, délégué général de la Croix-Rouge française.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Sophie Audugé, Lydia Guirous, Tom Conan, au moins 27 morts. C'est le pire bilan du naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche entre la France et l'Angleterre. Une nouvelle crise des migrants, puisqu'il y a quelques jours, c'était à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne que se déroulait un autre drame avec des migrants morts de froid. Depuis des années, on se demande comment résoudre une crise qui a lieu outre dans la Manche, mais aussi en Méditerranée, à Lampedusa ou Lesbos, ou encore à l'est de l'Europe. L'Europe paraissant totalement impuissante pour faire face aux vagues de migrants illégaux. D'où notre premier débat. Calais, l'Europe est-elle encore capable de gérer la crise migratoire ? Et vous êtes 94,5% à dire non sur Twitter avec nous. Christophe Combes, directeur général de la Croix-Rouge française, auteur du livre « L'humanité ne se négocie pas », publié aux éditions de l'Aube Collection Paroles d'acteurs. Pardon, bonsoir.
Bonsoir.
La jungle de Calais a commencé en 2002 avec la fermeture du centre de Sangatte. Elle a été fermée en 2016 et manifestement, les problèmes perdurent.
La situation est toujours la même dans les Hauts-de-France, hein, où on voit des personnes en errance qui habitent dans des campements informels. Donc on voit que la situation n'a pas évolué. Il y a toujours beaucoup de monde qui se retrouve dans une situation humanitaire absolument épouvantable. Des personnes qui ne peuvent pas se reposer, des personnes qui ne peuvent pas non plus être accompagnées par les humanitaires. Voilà, au motif que cet accompagnement humanitaire créerait un appel d'air. Et donc, on nous empêche de faire notre travail aujourd'hui. Et cette situation est absolument dramatique. Elle a conduit au drame qu'on a vu hier et qui n'est pas une surprise pour nous qui alertons depuis très longtemps sur cette situation.
Lydia Guirous.
Quand vous dites qu'on vous empêche de faire votre travail d'humanitaire, c'est l'État français, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui l'empêche ?
Ben c'est effectivement les forces de l'ordre sur place. C'est les collectivités aussi qui rendent inaccessible
dans le micro
un certain nombre d'endroits autour de Calais. Et donc ainsi, on peut pas poser nos dispositifs, on peut pas accéder aux personnes en situation d'errance, distribuer de la nourriture, apporter les premiers soins psychologique, les premiers soins d'urgence, voilà, bref, accompagner et apporter un tout petit peu de soins, d'accompagnement et de dignité auprès de ces personnes qui sont dans le dénuement le plus total.
Tom
Collin. Moi, j'ai parfois l'impression, même si je ne suis pas du tout un expert de ce sujet, mais que je suis quand même la thématique depuis malheureusement pas mal d'années, et en fait, ce qui me frappe, c'est que j'ai parfois l'impression que le sujet et les personnes en elles-mêmes, in fine, sont un peu prises en otage, pas par des gens ou des gouvernements ou même des régions ou des communes, mais plutôt par des intérêts contradictoires, notamment des intérêts entre différents États. Bon, par exemple, je pense à l'Angleterre par rapport à la France, ou à l'Angleterre par rapport à l'Union européenne désormais, puisque la première a quitté l'Union. Et donc, est-ce que ce n'est pas des enjeux qui ensuite ont des concrétisations très, très immédiates et qui compliquent ensuite les tâches ? Pas parce que à haut niveau, il s'agit de ne pas trop donner de signes dans un sens ou dans un autre, et donc finalement, d'un point de vue symbolique, de ne pas trop donner ou de... voilà, vous voyez ce que je veux dire ? D'essayer un peu d'arbitrer en mettant les gens un peu dans un étau et donc en les prenant d'une certaine façon en otage.
Jean-Christophe Combes.
Bah, la situation, c'est clair qu'elle est complexe et qu'elle est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, on voit bien les difficultés qu'il y a de discussion entre la Grande-Bretagne et l'Europe et la France. On dit c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de voies légales d'accès à la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, a une politique migratoire qui est extrêmement stricte, refuse d'ailleurs de mettre en œuvre un certain nombre de principes fondamentaux du droit international, refuse et limite fortement le rapprochement familial, parce qu'il y a beaucoup parmi ces migrants de personnes qui ont leur famille, qui vivent en Grande-Bretagne et qui légitimement essayent de les retrouver. C'est un pays qui, aujourd'hui, à la frontière, ne prend pas en considération les demandes d'asile de la part de ces migrants. Donc, évidemment, ça complexifie fortement les choses et ça pousse, en fait, ces personnes à prendre des risques qui sont inconsidérés, en tout cas qu'elles ne prendraient pas si ces voies légales d'accès existaient. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ces migrants, ils sont coincés dans une situation complexe, avec un droit qui est extrêmement complexe. Le droit européen, d'ailleurs, en la matière, est quand même aussi assez complexe. Hein. Voilà, tous les processus de Dublin, etc., empêchent un certain nombre de migrants de déposer des demandes d'asile en France. Et donc, leur empêche d'avoir des perspectives sur notre territoire. Moi, je voudrais revenir vraiment à la situation de ce qu'on voit, nous, en tant qu'humanitaire. C'est-à-dire que, moi, Croix-Rouge, a fortiori, on est neutre, on est impartiaux, on n'est pas là pour commenter, on va dire, ou donner une appréciation sur la politique migratoire, dire voilà, les frontières sont fermées, pas assez fermées, il y a trop de migrants, pas assez de migrants. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des êtres humains en France qui, aujourd'hui, ne sont pas accompagnés dignement, auxquels on ne peut pas assurer un minimum d'action humanitaire.
Quand vous disiez, c'était intéressant qu'il y avait des dispositifs, donc je pense que vous entendez des choses vraiment concrètes à mettre en place pour pouvoir subvenir aux besoins essentiels de ces personnes. Là, quels sont les obstacles concrets, c'est les communes, c'est les communautés de communes, c'est sûr, c'est à un niveau très local.
Je vais vous donner des exemples très concrets. La commune de Calais aujourd'hui, elle met des grosses pierres sur les espaces de stationnement, là où on pourrait stationner nos camions. D'accord. Pour pouvoir délivrer en fait de l'aide humanitaire. D'accord. À ces migrants, pour qu'il n'y ait pas de point de fixation, comme ils disent. C'est la police qui est proche des dispositifs d'aide humanitaire. De fait, lorsque des migrants, souvent en situation irrégulière sur le territoire, voient la police à proximité de nos dispositifs, ils n'ont pas envie de venir. Et donc, nous, on ne peut pas les accompagner et les aider correctement.
C'est dissuasif, quoi.
Sophie Auduchet.
Oui, de toute façon, je crois qu'c'est absolument dramatique d'avoir ce naufrage hier soir. Après, c'est vrai qu'on a de l'extérieur, en tous les cas, moi je ne suis pas du tout une spécialiste du dossier, mais on a quand même le sentiment d'être au cœur d'un combat géopolitique de grosses puissances qui finalement fait de la compète de bras musclés en fait, entre eux, avec effectivement une Europe qui se retrouve dépourvue de l'Angleterre suite au Brexit, où on commence à se rendre compte que finalement l'Angleterre sortie du Brexit, ça pose quand même un certain nombre de questions que tout le monde a mis sous le tapis parce que ça les arrangeait peut-être pas, enfin plutôt bien de les mettre sous le tapis à ce moment-là. Comme par hasard, Decathlon se met à arrêter de vendre ses kayaks il y a une semaine ou 15 jours, et tout le monde se dit il a peut-être peur qu'on les lui prenne ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. La maire de Calais annonce que ça fait des mois qu'elle prévient, qu'elle écrit au gouvernement en leur demandant de faire quelque chose.
Ou même des années.
Et là, en fait, et très récemment, il y avait cette tension. On savait, pour le coup, là, on savait très. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en sais rien, mais je vous le dirai. Vous saviez très bien qu'on était dans une situation de telle tension qu'il était tout à fait probable que des gens désespérés prennent n'importe quoi pour tenter de rejoindre l'Angleterre, à tel point que même Decathlon, une marque qui n'a rien à faire dans une histoire comme ça, a arrêté de vendre des kayaks pour éviter de se prendre ça sur le dos. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. Ça veut dire que ce risque-là, il était très connu il y a déjà plusieurs semaines. Et quand je parle d'un risque, c'est pas qu'il s'en aille, c'est qu'il y ait des gens en nombre qui meurent.
Aller dans votre sens, juste deux chiffres. Il y a eu 31 500 tentatives de traversée depuis le début de l'année et 7 800 personnes qui ont été sauvées en mer.
D'accord. Jean-Christophe Combe, entre Sophie Auduchet et les chiffres de Lydia Guirous, je vais vous faire une remarque. C'est ce qu'a dit Sophie Auduchet. Le bras de fer avec des grandes puissances. Quand on voit que la Turquie a fait du chantage sur les migrants, notamment vers l'île de Lesbos. Quand on voit ce qui se passe en Libye, notamment en allant vers Lampedusa, ou quand on voit, il y a quelques jours, la Biélorussie qui fait un chantage aux migrants à l'est de l'Europe, est-ce que c'est pas vrai, comme le dit Sophie Audugé, les migrants sont devenus un chantage de certaines grandes puissances, la Biélorussie via la Russie via peut-être la Biélorussie et la Turquie contre l'Europe?
Bien sûr, mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire qu'on utilise des êtres humains pour faire pression, pour, comme une arme dans un combat, dans un rapport de force géopolitique.
C'est ça, l'otage, c'est ça
qui est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que mon livre s'appelle « L'humanité ne se négocie pas », parce que ce qui est invraisemblable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que des principes simples, voilà, on est tous des êtres humains qui jusqu'à présent étaient défendus fortement par les pays occidentaux, par le droit international humanitaire, eh bien aujourd'hui tout ça, ça compte plus, c'est remis en cause, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites en fait dans la façon dont les États aujourd'hui s'opposent.
Et sur la question des limites, juste un point, ça me fait penser en fait à la liberté de la presse. Et vous savez, on a tous en tête ces images de journalistes avec un gilet pare-balles sur lequel on voit marqué presse en anglais, et effectivement qui est un peu un symbole de cette liberté qui est censée quand même être respectée dans toutes les circonstances, en tout cas qui protège un minimum les photographes, les reporters sur place, parce qu'ils sont neutres, en tout cas censés être neutres, ce qui est sans doute le cas pour des gens qui prennent de tels risques pour leur propre vie, sur des terrains qui sont pourtant souvent des théâtres d'opérations, etc. Et donc, et effectivement, ça nous paraîtrait invraisemblable que des journalistes, et ça paraît toujours invraisemblable que les journalistes ne puissent pas intervenir dans des cas comme ça, ne serait-ce que pour pouvoir, effectivement, diffuser ensuite l'information. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire, effectivement, jusqu'où pourra aller cette politique-là dans la concrétisation sur les corps.
Jean-Christophe Combe et Lydia Guirous.
Ouais, c'est intéressant parce que le parallèle, c'est exactement la même chose pour les travailleurs humanitaires, en fait. Ils sont neutres, ils sont protégés par le droit international humanitaire. Normalement, on doit les laisser accéder en tout temps et dans tout espace, dans toutes circonstances, aux personnes qui en ont besoin. C'est un principe de base. Et aujourd'hui, même ça, on voit que c'est remis en cause. On voit qu'il y a régulièrement des délégués du Comité international de la Croix-Rouge dans les pays en Afrique, notamment, qui sont tués dans le cadre de l'exercice de leur mission. On respecte même plus l'emblème Croix-Rouge, qui est un emblème de protection absolue aujourd'hui, normalement, dans le monde.
Lydia Guirous.
Alors, c'est vrai qu'il y a un devoir d'humanité et d'aide avec ces migrants qui sont instrumentalisés parfois par des dictateurs pour en faire une sorte de chantage. Certains font le procès aux organisations humanitaires d'être un peu, finalement, ceux qui aident les passeurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et par ailleurs, l'organisme Oxfam, qui est dirigé, il me semble, par Cécile Duflot, a attaqué l'État pour inaction climatique. Est-ce que vous envisagez, puisque vous nous avez indiqué que vous étiez empêché dans votre action humanitaire auprès des migrants, d'attaquer peut-être l'État qui vous empêche d'agir auprès de ces migrants et de faire votre devoir d'humanitaire?
Alors, d'autres associations l'ont fait. D'ailleurs, l'État a été condamné dans les Hauts-de-France à distribuer en fait un minimum d'aide alimentaire et à permettre aux migrants d'accéder à des dispositifs d'hygiène, à des sanitaires, etc. Mais ça reste très largement insuffisant. Après, vous savez, la Croix-Rouge a un principe de neutralité. Donc en fait, en règle générale, on prend très peu la parole publiquement et puis on a peu recours à la justice. On essaye d'user de quelque chose qui s'appelle la diplomatie humanitaire, voilà, la diplomatie silencieuse. Je passe beaucoup de temps avec différentes autorités pour essayer de trouver des voies et moyens justement pour résoudre ces problèmes sans en faire état publiquement. Mais la situation est telle aujourd'hui que je crois que nous avons le devoir d'en parler et puis d'alerter la situation et d'amener un peu d'humanité dans ce débat.
Sophie Audugé.
Mais est-ce que justement, c'est pas un nouveau paradigme de la diplomatie internationale? Est-ce que c'est pas aussi le signe d'une perte de positionnement dans la diplomatie internationale, qui est la place qu'occupait la France avant? C'est-à-dire qu'il y a des méga espaces internationaux qui ont pris cette...
Comme la Turquie ou la Russie, par exemple.
Oui, et puis bon, derrière même d'autres. Enfin, je veux dire, tout le cette exploitation humaine par des passeurs...
Alors, cinq passeurs ont été arrêtés suite au naufrage d'avant-hier.
Parce que c'est sûr que ça ne peut pas se traiter... Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on attaque le gouvernement français, et que ce soit celui-ci ou celui d'avant et celui d'après... Mais est-ce que clairement on croit, si on n'est pas hypocrite, est-ce qu'on croit vraiment que c'est ici que ça joue et c'est pas plutôt au niveau international?
Je fais pas du tout le procès du gouvernement français.
Oui, bien sûr.
La situation, elle est vraiment complexe. Effectivement, elle nous dépasse tous. La seule chose, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les valeurs qui portent et qui protègent le droit international humanitaire, qui ont depuis 1945 en particulier été portées dans les Nations Unies, etc., sont remises en cause. Et c'est pas parce que la France a moins d'influence ou d'autres, c'est juste ces valeurs-là, ce socle de valeurs qui est moins influent dans la diplomatie mondiale.
Merci beaucoup Jean-Christophe Combes. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti aujourd'hui, L'humanité ne se négocie pas, publié aux éditions de l'Aube dans la collection Paroles d'acteurs. Verdict sur Twitter, Calais. L'Europe est-elle encore capable de gérer la crise migratoire? Vous êtes 95% à dire non. Ça vous dirait un peu de légèreté, les vraies voix, avec la chronique présidentielle d'Eva Fleury?
Ah oui, avec joie.
Et c'est tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Lydia Guirous, Tom Conan et Sophie Audugé. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle d'Eva Fleury. Et la météo n'est pas au mieux pour Éric Zemmour.
Et oui, sale temps pour Éric Zemmour. Après un sondage au Doxa publié avant-hier, où il était battu par Marine Le Pen dans tous les domaines, finalement, il ne bénéficiera pas, selon l'hebdomadaire Le Point, du soutien de Philippe de Villiers. Celui-ci devait être l'invité vedette du Zénith de Paris. Il aurait pris cette décision en début de semaine et aurait confié à plusieurs personnes qui ne croyaient plus aux chances de victoire à la présidentielle du polémiste. Et seconde mauvaise nouvelle pour Éric Zemmour, le financier Charles Gave, qui lui a prêté 300 000 euros, s'est retiré de la campagne et on a même entendu dire qu'Éric Zemmour chante du Eddie Mitchell.
Si tu me quittes, plus personne ne comprendra mon désarroi. Et je garderai ma souffrance dans un silence sans espérance.
Alors les vraies voix, est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a désormais du plomb dans l'aile?
C'est possible, mais après, est-ce que le fait d'écouter du Eddie Mitchell, ça veut dire qu'on est forcément dépressif? Ça, je l'ignorais, mais c'est vrai qu'en écoutant, on peut effectivement y penser. En revanche, c'est sûr que ça sera plus compliqué que ce qu'il pouvait espérer. Ça, c'est certain. Parce qu'en réalité, c'est quand même un monde tellement violent où tous les coups sont permis. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué. Et même pour Macron, ça avait été très compliqué. Le sort avait plutôt été en sa faveur avec des démissions forcées, entre guillemets. Donc voilà, il faut aussi que les cartes soient alignées.
Non, mais c'est vrai qu'il a connu une dynamique pendant plusieurs semaines qui était exceptionnelle. Là, il y a un coup d'arrêt. Est-ce que c'est un coup d'arrêt qui est définitif ou est-ce qu'il peut rebondir? Je ne sais pas. Il y a encore bien 3 mois, voire 4 mois de campagne qui peuvent réserver des surprises. Là, on en a une, puisqu'on n'imaginait pas qu'il allait baisser dans les sondages. Dans une semaine, vous allez avoir le candidat des Républicains qui va être désigné par le parti. C'est toute une machine qui va y avoir derrière. Donc il y a encore beaucoup de surprises que nous réserve cette campagne. Je me dis que quand on a un ami comme Philippe de Villiers, c'est pas très fiable, parce qu'ils étaient quand même très copains, ils comptaient sur lui, ils le lâchent à la dernière minute quand les sondages commencent à décliner. C'est pas le top
pas
de l'amitié,
sympa.
Là.
Sophie Audugé, un mot sur Éric Zemmour en baisse?
Oui, moi je pense qu'il faut attendre, il y a plein de choses qui vont se passer dans cette campagne. Il était tout seul à parler, donc les sondages montaient, là il s'arrête de parler, il y a le débat des Républicains qui prend la place médiatique, donc du coup il baisse, on va voir.
Et en plus, il oscille entre une stagnation et une baisse de 2 points dans le dernier sondage ELAB, comme disait un certain Jacques Chirac, les merdes ça vole en escadrille.
Et il y a une candidate pour laquelle la météo n'est pas non plus au beau fixe, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris. Dans le même sondage ELAB, elle oscille entre 4 et 5% selon les configurations, une situation parfaitement résumée dans cette chanson de Nolwenn Leroy.
Ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre.
Alors, est-ce que vous pensez que si Anne Hidalgo ne monte pas dans les sondages, le PS va devoir trouver un autre candidat ou une autre candidate ?
Comme chanterait dans le Loin Norrois, quelqu'un d'autre.
Voilà.
Bah, Tom Collin. ça serait peut-être une bonne chose. En fait, ce serait même idéalement, la bonne hypothèse que Hidalgo se retire ou en tout cas pousse éventuellement un autre candidat qui serait plus à même de défendre ses intérêts. Parce qu'à un moment donné, enfin, l'intérêt de la gauche, de son camp, parce que c'est toujours difficile en fait de voir la différence qu'il peut y avoir entre les intérêts personnels et les intérêts idéologiques qu'on est quand même censé porter aussi. Donc si Hidalgo n'est pas en bonne position, pour des raisons même extérieures à sa personne, à son talent personnel, etc., à ce moment-là, il serait pertinent effectivement de faire apparaître quelqu'un d'autre.
Bon, il y a eu saccage Paris, maintenant on a saccage PS avec Anne Hidalgo. C'est définitivement terminé pour les socialistes, j'ai l'impression. Ça nous évitera en tout cas un saccage France, et c'est pour le mieux. Non, je pense que moi, je les vois pas avoir de candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ont des problèmes financiers, etc. Ça va être très difficile de se retourner, de trouver des financements. Je les imagine plutôt apporter leur soutien individuellement à un autre candidat.
Sophie Audugé.
Oui, je pense que c'est quand même incroyable qu'ils aient choisi Anne Hidalgo pour représenter le Parti Socialiste. Hein, ça en dit long quand même sur le délitement du parti. Si c'est pas Anne Hidalgo, qui ça peut être ? Il y a personne qui pourrait prétendre...
Arnaud Montebourg.
ça remontada, c'est ça ?
Oui.
Alors je pense que c'est pas en France, hein, vaut mieux qu'il aille en Espagne.
Ah non, la remontada, c'était à Manchester City hier soir, mais c'est autre chose.
Oui, voilà, c'était un autre domaine. Après, c'est vrai que moi, je pensais même pas que c'était possible,
bien
en fait. Oui, je pensais même pas que c'était possible qu'elle puisse dire écoutez, en fait, je suis trop bas dans les sondages, donc je m'en vais. Mais ça pose des questions effectivement financières, c'est-à-dire qu'elle va ruiner littéralement le parti, puisque là, a priori, c'est une déculottée annoncée. Mais qui peut y aller
qui
à sa place ?
Ça, c'est une bonne question. Merci beaucoup, ma chère Eva Fleury, pour cette excellente chronique. Pour une première, tiens, on se remet un coup de Nolwenn Leroy.
Bravo.
Elle était chez notre ami Yvan Cujous dans le Loft Musique la semaine dernière et elle chante divinement bien. Et je dois le dire, elle est extrêmement sympathique et gentille. Nolwenn, si tu nous écoutes, je t'embrasse. À 18h30, notre grand débat. Nouvelle mesure anti-Covid, le gouvernement a-t-il fait les bons choix ? Pas franchement pour vous, puisque vous êtes... C'est même pas brejnevien, là, c'est carrément stalinien. 93,4% à dire non. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Et Tom Conan, artiste, essayiste, auteur de Radical, publié chez Albin Michel. À 18h30, notre grand débat, nouvelle mesure anti-Covid, le gouvernement a fait les bons choix. Eh bien, vous êtes 93,4% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ça va bien, les vraies voix, en forme pour cette seconde heure. Ça vous dirait un petit tour de table de l'actualité de Lydia Guirous ?
Oui.
Eh bien, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous voulez nous parler, ma chère Lydia, des menaces contre Christine Kelly ?
Oui, je voulais vous parler des menaces contre Christine Kelly. Christine Kelly, qui est cette journaliste qui fait juste son travail, à savoir animer un débat tous les soirs sur la chaîne CNews. Son émission était avec Éric Zemmour. Christine Kelly, on ne sait rien de ses opinions politiques. Elle anime un débat. Et elle a reçu des menaces de décapitation. Et je suis scandalisée. Je voudrais lui apporter évidemment tout mon soutien, puisque moi-même, j'ai pu connaître ce type de menaces et je sais les moments extrêmement difficile qu'on peut traverser, et je voudrais surtout dénoncer ce climat qu'il y a actuellement en France, à savoir que quand vous ne partagez pas, pour certains, lorsqu'ils ne partagent pas les opinions politiques ou une certaine vision ou des choix comme vacciner ou pas vacciner par exemple ou autre chose, eh bien la menace arrive très vite. Soit c'est les insultes et le harcèlement, soit ce sont des menaces très concrètes et des menaces de mort. Et je trouve que ça met en danger notre démocratie, ça met en danger la liberté d'expression. C'est intolérable, et je trouve que l'ensemble des journalistes devraient s'élever et apporter leur soutien à Christine Kelly. Pourquoi Christine Kelly reçoit des menaces de mort juste parce qu'elle anime un débat, et d'autres ont animé des débats, d'autres ont fait des émissions avec Éric Zemmour et eux ne les reçoivent pas. Pourquoi elle spécifiquement ? Pourquoi cette animatrice, cette femme qui est courageuse et talentueuse ? Apportons-lui tous notre soutien.
Alors en fait oui, je pense surtout que personne ne doit recevoir de menaces de mort. Bien sûr, mais il faut déjà rappeler ça, parce qu'en fait, il y a parfois des gens qui sont tellement pollués par certaines idéologies, qui sont éventuellement des idéologies qu'on dit conséquentialistes, c'est-à-dire finalement où il y a un esprit de vengeance qui peut animer une certaine forme d'action et de révolte. Mais il faut, voilà, faut poser l'axiome selon lequel, effectivement, personne ne doit envoyer de menaces de mort à qui que ce soit. Donc, effectivement, c'est terrifiant dans l'exemple que donnait Lydia Guirouz. Effectivement, j'ai vu cette information passer. Mais après, effectivement, la question, c'est... je me demande finalement, le problème, s'il n'est pas en amont. Parce que finalement, évidemment, les médias doivent ensuite avoir leur rôle, bien sûr, de soutien à toute personne de quelconque média qui subirait ce type de menace. Mais on voit bien que ce n'est pas un problème au niveau des médias en eux-mêmes. C'est bien les gens qui profèrent ces menaces ne sont pas des gens des médias. Donc finalement,
oui, mais c'est le soutien.
Sont ces personnes ?
Il y a une forme de corporatisme d'habitude.
Ouais.
Et là, moi, je ne vois pas le soutien et l'élan de solidarité de cette corporation.
Mais surtout, quel niveau d'hystérie en fait doit exister dans les esprits pour que ce genre d'idées apparaissent?
C'est évident.
C'est plus ça qui me vient aussi à l'esprit. Ouais.
Oui, donc déjà, on est quand même dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. On nous en parle sans arrêt. Ça serait quand même bien qu'on puisse l'appliquer un minimum à des gens qui sont journalistes, qui font leur métier. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup Christine Kelly. Donc je ne serais pas du tout objective. Je trouve que c'est une femme admirable. C'est une femme extrêmement courageuse. Elle a pris une tranche horaire qui n'était pas facile. Elle a créé cette émission avec Éric Zemmour à l'époque où il était encore donc un polémiste et un journaliste. Je trouve qu'elle a toujours dans les débats qu'elle a animés depuis le début de cette émission que moi je regarde justement parce que elle est là, je trouve qu'elle a toujours l'intelligence de poser des questions et même où, quand Éric Zemmour était là, où justement elle prend la parole de ceux qui ne sont pas d'accord, elle a toujours le courage de lui poser des questions, enfin elle avait le courage de lui poser des questions quand elle était encore là, et des questions qui effectivement pouvaient animer ceux qui n'étaient pas d'accord avec Éric Zemmour, elle l'a toujours fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de respect justement par rapport à Éric Zemmour, où il ne fait aucun doute qu'elle ne partage pas, qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne partage pas, toujours pas un certain nombre de ses convictions et de ses prises de position. Mais pour moi, c'était la démonstration, c'est la figure d'une journaliste intelligente, d'une journaliste qui est à sa place, qui connaît son rôle, qui sait tenir ce rôle, qui ne l'outrepasse pas et qui est capable d'animer un débat avec des gens avec lesquels elle ne partage pas des positions, mais tout en leur donnant les moyens de les exprimer.
Alors après, je pense quand même le problème de pas seulement de cette femme, mais effectivement de cette émission qu'elle anime et qu'elle animait notamment quand il y avait Zemmour, parce que c'est surtout là finalement que le problème a commencé à se poser, parce que c'est une figure quand même très particulière, Zemmour, très importante, très influente et en même temps extrêmement
clivante,
c'est moins qu'on puisse dire, et radicale, puisque j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui est sorti récemment, on l'appelait ça le radicalisé, hein, j'aurais dû déposer le nom.
Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Radical.
Ouais, c'est pas sur exactement la même thématique, mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas quand même de neutralité. Par contre, il faut quand même remettre là-dessus les choses au clair. Dans les sciences sociales, par exemple, c'est quelque chose qu'on étudie très clairement, il n'y a pas de neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs existent toujours. On peut se dire neutre, évidemment, dans une démarche scientifique, dans un essai, dans un débat contradictoire qu'on va mener, bien sûr. On peut essayer avec des procédures, avec des temps de parole, etc., d'arriver vers quelque chose le plus équilibré possible. Mais de fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais neutralité totale.
Mais qu'importe.
Ne
mérite pas de
menace. Là on était un peu sur ce sujet.
Ça n'annule évidemment pas
ce que je viens de dire juste avant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des médias qui ont des positionnements. CNews a un positionnement qui est quand même très clair, que je partage pas.
Non, il y a toutes les. Toutes les expressions politiques chez CNews.
Oui, mais...
Demain matin, moi je débat avec Olivier Dartigol à 7h du matin sur CNews. Il est communiste.
C'est pas un média neutre, de la même manière que France Inter n'est pas un média neutre.
La différence, c'est que CNews ou Sud Radio ne refuse pas d'inviter des personnes qui ne sont pas de leur avis.
Mais la neutralité, CNews ou Sud Radio ne sont pas payés avec la redevance des contribuables.
Non, mais certes, mais la neutralité n'existe pas en général, et en particulier dans les médias. Et d'ailleurs, ce n'est pas un tort. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des médias qui sont plutôt de droite, des médias de gauche, etc. Effectivement. Et les menaces qu'on a évoquées tout à l'heure sont évidemment totalement inacceptables. Mais la neutralité n'existe pas.
Non, mais elle fait quand même son travail de journaliste pour justement ne pas se limiter à laisser la parole sur des positions qui sont parfois quand même très, très, très avancées. Mais je veux dire quand même que
les... Très court.
Oui, tout à fait. Mais les menaces de mort, c'est aujourd'hui, alors que Zemmour n'est plus là.
Oui.
Quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus se tromper. Je veux dire, c'était pas quand il était à l'antenne qu'elle a eu ces menaces de mort. Et il y a une espèce de diabolisation de Zemmour qui finalement atteint alors, tous les gens.
Et Zemmour était chez Ruquier pendant des années. C'est d'ailleurs Laurent Ruquier qui l'a mis en lumière. Il partageait la vedette avec Léa Salamé. Je crois qu'ils n'ont pas reçu de menaces de mort à l'époque. Il avait une émission sur Paris Première. Les co-animateurs n'ont pas reçu de menaces de mort parce qu'ils animaient une émission avec Zemmour.
Soutien total à Christine Kelly.
Bien sûr, soutien total à Christine Kelly que j'embrasse également.
Ces menaces.
Est-ce que les vraies voix, vous aimez les bébés?
J'adore les bébés, j'en ai.
Ça dépend lesquels.
Pourquoi? Parce que c'est le mois novembre. Je vous l'apprends. Novembre est le mois de la prématurité. Et on va parler dans quelques instants avec Vincent Camus, directeur général de la division Life Care Solutions de GE Healthcare, de ce qu'on fait de nouveau pour les prématurés. Et il y a des choses extraordinaires, et notamment une magnifique opération en fin d'année pour tous les bébés prématurés. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Sophie Audugé, Lydia Guirouz, Tom Conan. Le mois de novembre, oui, on ne le fait pas systématiquement, et le mois de la prématurité. Et on va en parler justement de la prématurité. Nous sommes en compagnie de Vincent Camus, directeur général de la division Life Care Solutions de GE Healthcare. Bonsoir Vincent Camus.
Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous.
Alors justement, à combien de semaines peut-on considérer qu'un enfant est prématuré?
Alors, est considéré prématuré un bébé né avant 37 semaines d'aménorrhée. Il y a trois niveaux de prématurité chez l'enfant. La prématurité moyenne, elle est dite moyenne lorsque la naissance a lieu entre la 33e et la 36e semaine d'aménorrhée révolue, c'est-à-dire 7 à 8 mois de grossesse. La grande prématurité concerne la naissance qui a lieu entre la 28e et la 32e semaine, donc 6 à 7 mois de grossesse. Et ensuite, la très grande prématurité, on parle de très grande maturité quand la naissance a lieu avant 28 semaines à environ 6 mois donc de grossesse. Parmi les enfants qui naissent prématurément, 98% sont des prématurés moyens, 1,5% des grands prématurés et 0,5% sont des très grands prématurés.
Et Lydia Guirouz.
Bonsoir. Pouvez-vous nous dire combien d'enfants naissent prématurés en France chaque année? Combien ont besoin d'un passage en couveuse et quel est le rôle de la couveuse lorsqu'ils sont prématurés?
Alors, chaque année dans le monde, déjà, ce sont quelques 15 millions de bébés qui naissent prématurément, c'est-à-dire avant les 37 semaines révolues de gestation, et ce nombre est en augmentation. En France, pour resserrer le prisme, la prématurité touche 165 bébés chaque jour, soit environ 7% des naissances. 7% des naissances, et également ce chiffre évolue à la hausse dans notre pays comme dans le reste du monde. La couveuse, elle va remplacer le ventre maternel quand c'est nécessaire. Elle permet avant tout au bébé de se protéger du froid, car il n'a pas encore la maturité nécessaire pour réguler sa température. Il a besoin en fait d'être au chaud, c'est la fonction principale de la couveuse, qu'on appelle également incubateur. Donc on a beaucoup travaillé sur la sécurité des bébés et la sûreté et fiabilité des équipements pour l'univers de la réanimation. Nous sommes les premiers à avoir inventé un incubateur que l'on appelle hybride, lancé dans les années 2000. Elle s'appelle la Girafe Omnibed et c'est la solution emblématique de nos solutions. Elle permet en fait de garder le bébé dans le même incubateur pendant toute la durée de son séjour, d'avoir une ouverture complète et moins médicalisante, qui permet en fait aux parents d'être moins isolés de leur bébé, faire du pot à pot par exemple, et au personnel soignant de faciliter les soins qu'ils donnent à ces bébés, notamment pour les grands prématurés. Ensuite, le troisième point pour cet incubateur, ça permet aussi d'assurer la fonction de transport, si on a besoin de transporter l'enfant, et d'éviter de les changer d'incubateur pendant les trajets depuis la salle de naissance jusqu'à la salle de soins.
Sophie Audugé.
Oui, est-ce que vous pourriez nous donner un peu des informations sur les dernières avancées, les innovations que vous souhaitez faire connaître aux parents?
Alors, à cette occasion, en fait, on va organiser un live le 29 novembre. C'est une émission en direct qui a pour objectif de sensibiliser le grand public au thème de la prématurité. Et on a choisi de donner la parole à des parents pour évoquer l'aventure de la prématurité et ce voyage en réanimation néonatale. Car effectivement, la naissance d'un enfant prématuré, c'est une véritable aventure. Et il est bon d'y être préparé et pour cela, d'en parler. Donc le débat, il sera animé par Emmanuel Laborde pour d'abord échanger sur le fait de devenir parent d'un enfant enfant prématuré, avec un partage d'expérience et des témoignages. On évoquera également les liens avec l'équipe soignant, parents et l'accompagnement des parents au cours de leur voyage en réanimation néonatale et l'univers médicalisé qui les entoure, les souvenirs qu'ils gardent. On parlera enfin également du suivi de ces enfants. Que fait-on après leur naissance pour s'assurer de leur développement? Sur le plateau, on aura l'honneur de recevoir le professeur Olivier Claris, un pédiatre néonatologue des Hospices Civils de Lyon, spécialiste de ces questions et de la prise en charge des grands prématurés. On aura également Amélie Chaléa, qui est une influenceuse sur Instagram, qui raconte l'histoire de sa petite Sherazade, née très grande prématurée. Elle témoignera aussi sur ce plateau. Et des parents de GS Care qui ont souhaité participer également à ces témoignages. Et enfin, le professeur Tsatsaris, qui est gynécologue obstétricien de l'hôpital de Port-Royal à Paris. Lui nous expliquera le rôle de l'échographie dans la prise en charge de la prématurité.
Tom Conan.
Oui, je voulais savoir aussi, vous avez une opération baptisée une girafe à Noël. Alors, comme c'est bientôt, qu'est-ce que c'est exactement cette opération?
Voilà, bah avant juste de vous parler de l'opération Une girafe à Noël, j'aimerais juste souligner que c'est la première fois que nous menons une campagne de communication aussi grand public et nous sollicitons nos salariés pour partager leur expérience. Je tiens vraiment à les remercier, la générosité de nos salariés est exceptionnelle. Ils ont partagé leurs histoires avec nous. Cette campagne était pour nous et pour eux l'occasion de montrer le rôle que GS Care joue pour amener les bébés et les mamans en bonne santé à la maison. Donc l'initiative Une girafe à Noël, elle a reçu un écho énorme de la part de nos collaborateurs et aussi de nos partenaires. Et pour aller plus loin, nous allons lancer une grande opération du cœur avec tous nos salariés. Cette opération Une girafe à Noël leur permet de parrainer un mini-héros et de lui offrir un doudou pour Noël. Et pas n'importe quel doudou, nous avons choisi la fameuse girafe de l'entreprise française Judy, qui nous a beaucoup aidé sur cette opération également. Et nous nous engageons à envoyer 2000 doudous à 80 services de réanimation pédiatrique en début de semaine pour chaque bébé prématuré puisse avoir un doudou à Noël dans sa couveuse. Et donc, on va relayer cette opération de cœur sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Une girafe à Noël, en demandant aux parents qui le souhaitent de nous adresser une photo de leur bébé avec le doudou girafe. Voilà.
Eh bien écoutez, si vous avez un bébé prématuré, n'hésitez pas. Tiens, parmi les vrais voix, il y en a qui sont nés prématurés?
Non.
Non.
Non plus?
Non.
Pas vous non plus, Vincent Camus?
Non, je, pas du tout.
Bah, je suis la seule bébé prématurée, alors.
C'est une vraie épreuve, par contre, pour les parents qui ont un enfant prématuré. Oui. Surtout quand c'est un grand prématuré, ça génère beaucoup de stress, d'inquiétude.
Oui, il y en a eu deux dans ma famille très, très proche. Et je peux vous dire que c'est pas une sinécure quand ils naissent à 500-600 grammes. Merci beaucoup et belle opération. Ouais. On pense à ces bébés qui auront le plaisir d'avoir une girafe. Merci à vous, Vincent Camus.
Merci à vous.
Directeur général de la division Life Care Solutions de GE Healthcare. Dans quelques instants, notre grand débat. Nouvelle mesure anti-Covid. Le gouvernement a-t-il fait les bons choix? Vous êtes 93,6% à dire non. On retrouve tout de suite avec nous le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu et directeur médical du site de santé Doctissimo.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles, et en cohérence, évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Olivier Véran, Jérôme Salomon et Jean-Michel Blanquer se sont exprimés en direct en début d'après-midi pour annoncer les nouvelles mesures anti-Covid. Après un début fait pour rassurer, le ministre de la Santé assurant qu'il n'y aurait ni confinement ni couvre-feu et que les mesures concilieraient liberté et responsabilité, les mesures moins réjouissantes ont été annoncées. On y trouve pêle-mêle la troisième dose de vaccin obligatoire à compter du 15 janvier, le passage de la durée de validité des tests de 72 à 24 heures pour garder son pass sanitaire. Le masque sera de retour dans tous les lieux fermés, y compris ceux soumis au pass sanitaire. Enfin, dans les écoles primaires, il n'y aura plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas, puisqu'un dépistage systématique de toute la classe aura lieu et que seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. D'où notre grand débat, nouvelles mesures anti-Covid, le gouvernement a-t-il fait les bons choix? Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 93,7% à dire non. Avec nous, Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical du site de santé Doctissimo et chroniqueur santé. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Est-ce que, Gérald, les nouvelles mesures ne sont pas finalement une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom ?
Ah bah si, bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on est encore sur la même stratégie qui est le tout vaccination, qui est une stratégie, j'allais dire, quasiment plus politique que médicale ou sanitaire, parce que on voit bien que la vaccination a quand même montré ses limites et on est encore sur, on pense que c'est la panacée, c'est le traitement universel ou la prévention universelle. Or, on a vu que c'était une arme dans l'arsenal, mais sûrement pas la panacée et qu'il faut médicalement la réserver à des patients qui sont ou des personnes qui sont à risque. Or là, on mise tout, le président, le gouvernement mise tout sur la vaccination, un peu comme si c'était l'arme magique, mais plutôt l'arme politique en disant on aura tout fait. On vous a protégé, c'est vraiment le rôle de l'État protecteur, pour pouvoir ne pas être… Il y a deux objectifs, à mon avis. Un, qu'on ne lui reproche pas de ne pas avoir tout essayé. Et deux, surtout, mettre sous le tapis un certain nombre de problèmes, et je pense en particulier aux difficultés de l'hôpital, qui ne sont absolument pas adressées. Donc, il y a une espèce de baguette magique de ce vaccin qu'on nous a sorti il y a quelques mois et qu'on continue à nous sortir avec une troisième dose et qu'on nous ressortira peut-être sur une quatrième, cinquième dose après peut-être la présidentielle.
Sophie Audugé.
Alors, je ne sais pas pour les autres, mais enfin, moi, j'en ai ras-le-bol. Je pense, comme beaucoup de Français, en fait, on a vraiment l'impression de vivre au rythme des autorisations, des droits de sortie du gouvernement. C'est extrêmement pénible. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Philippe, à savoir… franchement, est-ce que ce serait, si jamais il faut que tout le monde se vaccine, qu'il donne la vaccination, enfin qu'il fasse la vaccination obligatoire et qu'on en finisse, parce que là, on se retrouve avec des, d'abord ça divise les Français d'une manière extrêmement violente.
C'est clair.
On n'est pas, enfin moi je suis pas épidémiologiste et j'en sais rien. Ce que je retiendrai en tous les cas, en dehors des mensonges qui ont été faits, des erreurs, puisque on avait quand même des stocks de masques à l'époque de Sarkozy, où ils avaient préparé ce type d'événement. Hollande a tout fiché en l'air en considérant que c'était son prédécesseur qui l'avait fait, que ça ne l'intéressait pas de le garder. Bilan, on a vu dans quelle panade on s'est retrouvé. Bon, on est maintenant presque 2 ans plus tard, on se retrouve exactement dans la même situation et globalement, on voit bien que de toute manière, en plus les Français, il commence à y avoir une violence aujourd'hui entre ceux qui sont pro-vaccins, ceux qui ne sont pas pro-vaccins mais qui n'ont pas envie de rester chez eux et qui ont envie de pouvoir aller au restaurant, donc qui vont quand même se faire vacciner. Je veux dire, on en
c'est surtout que le vaccin ne nous sortira pas de cette crise. Je crois que si on n'a pas compris que c'est plutôt prendre du recul, protéger les plus fragiles, gérer l'hôpital, c'est-à-dire qu'adresser les causes, qui sont à la fois structurelles, qui sont aussi dans la... Et je suis d'accord avec vous, madame, quand vous dites les Français en ont marre, ils en ont marre et ils ont peur. Il y a deux catégories de Français, ceux qui en ont marre et il y a ceux qui sont terrorisés. Et on a l'impression que le vaccin, c'est un peu la piqûre magique, etc. Mais ce n'est pas la piqûre magique, ça ne nous sortira pas de cette crise-là. On l'a vu, on nous disait il y a 6 mois ou il y a 8 mois, regardez, passe sanitaire, on vous vaccine et on n'en parle plus, vous pourrez aller au restaurant et reprendre une vie normale. Ce n'est pas le cas. Regardez Israël qui est en train de parler d'une quatrième dose.
Je voudrais juste intervenir sur ce que vous dites. Les gens ont peur. Moi, ils ont peut-être peur du vaccin, mais les gens ont surtout peur de voir comment nos gouvernants sont pas capables de gérer ce truc-là. Moi, honnêtement, ça me déplaît fortement qu'on soit en train de discuter de ces questions-là, alors qu'on a normalement des professeurs qui sont hyper compétents sur ces sujets-là, mais qui traitent la question ensemble et qui fassent leur boulot quelque part.
Gérald Kierzek et après Tom Conan.
Oui, c'est surtout qu'il faut sortir de ce mode panique. C'est vrai. Là où je vous rejoins, c'est qu'on a l'impression qu'on dit tous, on contraint, etc. Il y en a un qui garde quand même un certain cap, c'est Emmanuel Macron, mais qui est un cap politique. Lui, il veut passer la présidentielle. Donc, il dit, j'ai le vaccin qui est un peu la solution. Je vaccine tout le monde sans le dire. Comme ça, je me prends pas les antivax dans la figure, etc. Mais en réalité, c'est une obligation déguisée. Donc, il fait en même temps sanitaire et en même temps politique. Le seul problème, c'est que moi, en tant que non pas analyste politique, mais médical, je dis qu'on n'a rien compris parce que cette maladie, elle ne s'éradiquera pas uniquement avec le vaccin et qu'il faut qu'on sorte du mode panique de cette gestion-là et qu'on arrive enfin à avoir une approche raisonnable, protéger les plus fragiles, doper l'hôpital et reprendre une vie normale.
Tom Conan. Voilà,
moi, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique en effet, mais que pour l'instant, le vaccin et les rappels de vaccin restent la meilleure arme. Ça me semble être quand même assez évident. en tout cas, qu'on présente à ce moment-là un traitement qui soit efficace. Je crois qu'il n'existe pas ou pas encore. Donc pour l'instant, ça me semble être la seule stratégie possible, peut-être la moins pire. Hein. Elle n'est peut-être pas bonne, cette stratégie, mais en tout cas, c'est la moins pire à mes yeux et aux yeux quand même de pas mal de spécialistes aussi. Ensuite, il y a quand même là une cinquième vague qui, moi-même, m'a un peu surpris. Enfin, non pas que je sois dans ce milieu au quotidien, mais c'est vrai que j'envisageais pas forcément que ça revienne aussi vite. Or, en Allemagne, ça reprend fortement. En Europe du Sud, on croyait que c'était...
Cinquième vague de quoi ?
Une cinquième vague.
Mais elle était où, la quatrième et la troisième ?
Je termine. Mais oui, c'est une cinquième vague de quoi ?
Bah, une cinquième vague du coronavirus, du Covid-19, peut-être.
Mais vous êtes allé voir dans les hôpitaux ? Vous êtes allé voir dans les hôpitaux ? Il n'y a absolument aucune vague de patients hospitalisés. Ah bah oui, mais moi j'aimerais bien que les médias aussi aillent voir un peu dans les hôpitaux.
Je termine quand même parce que j'ai été coupé plusieurs fois.
Donc, dans le micro.
Reprise en Allemagne. Je peux aussi, par exemple, l'agence de presse Bloomberg, qui a priori est une agence de presse sérieuse, qui parle beaucoup du cas de l'Allemagne. Ensuite, là, un article de Libération qui date d'aujourd'hui, d'hier, sur la reprise des cas de manière importante dans l'Europe du Sud, qui jusqu'à présent était plutôt, en effet, relativement épargnée, Espagne, Portugal, Italie. Donc, effectivement, ça fait quand même pas mal d'éléments qui permettent d'aller dans le sens, non pas des mesures spécifiques qu'on a forcément commentées tout à l'heure, mais en tout cas, d'aller dans le sens, effectivement, pas de nouvelles restrictions, mais en tout cas, d'une extension de ce pass sanitaire avec un prérequis qui sera à nouveau. Et d'ailleurs, je laisse quand même pas mal de marge de manœuvre et de temps pour la mise en place.
Gérald Kierzek.
Vous dites qu'il y a une vague, troisième, quatrième vague, il n'y en a pas eu. Il y a eu des cas positifs. Là, la cinquième vague, c'est des cas positifs. On va avoir 30 000, 40 000, peut-être 50 000 cas. Si vous avez une population à risque qui est vaccinée, ça pose pas de problème. Regardez Boris Johnson en Angleterre, il y a un mois et demi, il avait 40 000 cas, on le pressait de confiner, etc. C'était la panique. Il a dit, on serre les fesses, pardonnez-moi l'expression, et on attend 15 jours après, c'est redescendu naturellement. C'est-à-dire que quand vous avez les plus fragiles vaccinés, ou malheureusement décédé, parce que c'est aussi ça qui s'est passé sur les derniers mois, vous avez les plus fragiles qui sont protégés finalement. Et les cas positifs, c'est normal qu'il y ait des cas positifs. Chaque année, si on faisait des PCR aux gens qui ont la grippe ou qui ont la gastro-entérite, on aurait des PCR qui seraient extrêmement élevés, mais on ne le fait jamais. Donc là, on a le nez sur le guidon, sur un indicateur qui n'est pas le bon, qui s'appelle des contaminations, sans impact ni sur l'hospitalisation, ni sur la mortalité.
Lydia Guirousse.
Oui, moi j'ai l'impression depuis le début de cette crise qu'en fait c'est la peur et la panique qui est en train en fait de nous diriger, et la peur et la panique c'est souvent les pires ennemis de nos libertés, et on est prêt à accepter tout parce qu'on a peur de tomber malade, voire peur de mourir. Je voudrais vous demander, docteur, combien de personnes avec des comorbidités et des personnes très âgées ne sont pas encore vaccinées, parce que je pense que normalement on aurait dû les cibler en priorité pour les protéger comme ils disent. Et enfin, je voudrais qu'on arrive sur la question de la vaccination qui va sans doute devenir obligatoire dès début 2022, comme l'a dit le ministre de la Santé. Début 2022, c'est demain, c'est dans un mois et demi, des enfants à partir de 5 ans. J'ai l'impression, je suis pas médecin, mais j'essaye d'écouter et de comprendre que la balance bénéfice-risque est très très limitée pour les enfants. Et s'il s'agit de vacciner des enfants de 5 ans pour protéger des adultes, pourquoi on ne vaccine pas de manière obligatoire les adultes pour essayer de préserver les enfants ? Pourquoi on ne voit pas les choses de cette manière-là ?
Non, mais vous avez raison. Alors, sur les personnes à risque, il y a 10% à peu près des plus de 80 ans qui sont les plus à risque, qui ne sont pas vaccinés. C'est eux qu'il faut aller chercher en priorité. Ils ne sont pas primo-vaccinés. Donc, c'est ça la priorité numéro 1. Priorité numéro 2, ça serait d'aller vacciner les plus de 65 ans et les autres avec une troisième dose éventuellement. Encore que, vous voyez, il y a pas mal de gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont en parfaite santé et deux doses leur suffit amplement. Troisièmement, et ça c'est pour répondre à votre question sur les enfants, il ne faut pas toucher aux enfants. La balance bénéfice-risque, elle est défavorable sur le court terme parce qu'ils n'ont pas de risque de la maladie, et sur le long terme, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on s'abstient. Alors après, l'argument qui est de dire, parce que ça commence à bien faire d'accuser les gamins à chaque fois de contaminer papy,
merci,
mamie, de partager la bûche en deux et d'aller manger à la cuisine. Oui. Rappelez-vous ce qui avait été dit l'année dernière, ce qui était plutôt de l'ordre du ridicule. Les enfants, on les a stigmatisés en disant c'est eux qui contaminaient papy et mamie. Le virus circule chez les enfants ils se contaminent entre eux. Papy et mamie sont vaccinés, donc il n'y a pas de problème. Ils seront peut-être même triplement exactement vaccinés, donc il y a encore moins de problèmes parce qu'ils ne feront pas de forme grave. Et je vais vous dire, il y a un bénéfice à ce que le virus circule chez les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont développer une immunité naturelle. Et cette immunité naturelle, elle est plus solide et elle est plus durable que l'immunité post-vaccinale. Et en plus, elle stérilise la maladie, c'est-à-dire qu'elle empêche la transmission. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à éradiquer et avoir des vagues de contamination, j'ose même plus employer le mot de vague, qui vont diminuer progressivement.
Le sujet fait énorme. Vous avez une question très courte.
Très rapidement, docteur, je vous remercie pour ce que vous venez de dire et je trouve que c'est des propos qui sont extrêmement responsables et qui font du bien. Que répondez-vous à ce néphrologue des plateaux télé, Gilbert Deray, qui a des déclarations qui sont scandaleuses,
qui
culpabilisent
que le cerveau
des enfants.
Alors j'explique, qui a dit sur une chaîne de télé de service public que le cerveau des enfants qui avaient eu le Covid était comme les personnes qui avaient eu la maladie d'Alzheimer. Alors désolé, ça fera 2 ans dans quelques jours que j'ai perdu ma mère de la maladie d'Alzheimer et les médecins m'avaient dit à l'époque peut-être que ça a changé, qu'on ne voyait rien à l'IRM. Alors Gérald Kierzek.
Est-ce que l'un des médecins peut faire quelque chose contre... C'est spécialiste.
Moi, je resterais très confraternel. Je dirais, la néphrologie, c'est la spécialité des reins et en plus des adultes en ce qui concerne mon confrère. Deuxièmement, je dirais que le code de déontologie et le code de la santé publique obligent à une prudence dans les propos, de données qui sont vérifiées et surtout d'être prudent sur la répercussion que ça a auprès du grand public. Et je pense que c'est très anxiogène et que tous ces discours sont très anxiogènes et c'est pas tout à fait le rôle des médecins. Et troisièmement, sur le fond, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants en réanimation? Extrêmement peu. C'est des enfants qui ont des comorbidité. Et sur les IRM cérébrales ou les scanners cérébraux qui ont été faits, il y a des lésions vasculaires, mais comme chez l'adulte d'ailleurs, et qui ne sont pas du tout comparables avec des lésions d'Alzheimer. Donc je trouve que cette comparaison est plus que fausse, douteuse et très anxiogène.
On part au 0826-300-300. Vous êtes très nombreux à réagir. On va prendre Renaud de Seine-Saint-Denis et Marc de Paris. Je vais vous demander d'être rapide pour que Gérald Kierzek et les vraies voix puissent échanger avec vous. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe David et bonsoir à vos chroniqueurs de ce soir.
Alors, on vous écoute. Bonsoir. On va faire court.
Bien, je propose que Gérald Kierzek soit ministre de la Santé dans un prochain gouvernement, si jamais, par chance, nous avons une alternance qui serait fort bienvenue pour le pays.
Bah, Gérald Kierzek, ministre de la Santé, fera lui demander, mais c'est peut-être pas le moment.
Non, mais moi je suis praticien de terrain, et ce que je dis, c'est la voix de la raison, en fait. Vous voyez,
c'est
grand-voix,
c'est vrai que vous êtes extrêmement raisonnable, c'est pour ça qu'on aime beaucoup vous avoir sur Sud Radio. Renaud.
Bien écoutez, tout dépend, par exemple pour la question qui est posée, tout dépend où est-ce qu'on se place. Si on se place en termes d'efficacité, en termes politiques, d'un point de vue strictement cynique, je trouve que c'est très très bien joué, puisque le gouvernement continue à instiller la peur, fortement aidé par quand même la majorité des médias. On peut avoir parfois un petit peu d'esprit critique grâce à vous au Sud Radio, avec les excellents Françoise Degois et Alexis Poulain, heureusement qu'on les a. Et sinon, après, pour le reste, eh bien, c'est d'un point de vue cynique et politique, c'est très très bien joué. Donc on va continuer à instiller de la peur, et ça permettra effectivement d'aller tout doucement jusqu'au mois d'avril 2022 pour la présidentielle, puisque c'est très bien, les sondages sont un peu bidonnés, et qu'on est en train de nous préparer à une réélection inéluctable de M. Macron.
Pour vous, on joue avec la peur, Renaud. Alors, merci beaucoup, Renaud. On prend Marc de Paris. C'est toujours l'Île-de-France. Bonsoir, Marc.
Oui, bonsoir, c'est de radio. Bonsoir, M. Dabil. Bonsoir, M. Kierzek. Bonsoir, cette merveilleuse radio. Voilà, je suis un ancien médecin. Juste pour rappeler... attendez, excusez-moi, je pensais que j'avais été coupé. Juste pour rappeler, le point à publier...
Allô ?
T'as publié il y a environ un mois et demi les résultats des meilleures cliniques et meilleurs hôpitaux de France. Parmi les pages de ce bouquin, il y avait les statistiques des hôpitaux des régions atteintes du Covid. Donc le résultat, c'est du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021. Donc hôpitaux publics de Paris contre hôpitaux publics de Marseille. C'est l'ancienne rivalité. Paris, 41 000 hospitalisés, 8 500 en réa. Marseille, 22 000 hospitalisés, 1 700 réa. Pourquoi il y en a 4 fois moins à Marseille? Parce qu'ils ont traité plus tôt. Souvenez-vous des queues d'attente.
Et aussi, il y a beaucoup moins d'habitants à Marseille qu'à Paris en Île-de-France. Hein, ça joue aussi.
Je retiens les statistiques. 41 000 hospitalisés à Paris, 22 000 à Marseille. sur les 41 000 alors, de Paris, 8500 en réa, 1700 à Marseille.
Marc, on va faire réagir Gérald Kirzek aux deux remarques. Gérald, merci beaucoup. Marc, qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud qui dit « on joue sur les peurs » et à Marc de Paris qui est un de vos anciens confrères manifestement retraité?
Non mais clairement, il y a tout un discours anxiogène et moi je pense qu'il faut atterrir, sortir de ce discours anxiogène et atterrir. Mais l'atterrissage, il sera, je pense, après la présidentielle et pas avant la présidentielle. Et on continue à jouer, même si on sent quelques dissensions entre le président de la République et le ministre de la Santé et même entre ministres. Cet après-midi à la conférence de presse entre Blanquer et Véran, on sentait bien que Véran voulait pousser à la vaccination obligatoire, qui serait une vraie bêtise à mon avis et qui n'a aucun rationnel médical pour les enfants, alors que Blanquer a dit non, attendez, on n'en est pas du tout là, etc. Oui. Et sur l'histoire donc je voudrais qu'on sorte de cette peur, parce que c'est que la peur, c'est très mauvais pour le système immunitaire en plus. Oui, le stress, oui. Ça baisse le système immunitaire. Donc on ferait mieux de jouer sur l'optimisme, qui me permet de faire la transition avec Marseille, parce qu'il y a quelqu'un à Marseille, moi je suis ni pro ni anti-Raoult, parce qu'on voit bien que c'est la question qui est sous-tendue par mon ancien confrère. Toutes choses égales par ailleurs, les prises en charge ont été sûrement différentes. Ce qui est clair, et ça permettrait de sortir de la peur, c'est de dire que depuis mars 2020, novembre 2021, on traite le Covid. On traite de manière préventive, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui est à risque, qui est Covid positif, on lui donne un saturomètre, il surveille sa saturation en oxygène et dès que ça baisse, on le prend aux urgences, on lui fait un scanner. Si les poumons commencent à être atteints, on lui donne antibiotiques, anticoagulants, oxygène et on le tire d'affaire avant qu'il aille en réa. L'erreur, c'est qu'en mars et en avril 2020, on a attendu, on a dit rentrez chez vous avec du Doliprane, on a attendu que les gens dévissent à la maison, comme on dit dans le jargon, et se retrouvent en réa, et c'était trop tard. Maintenant, on a un discours positif, sans parler des nouveaux traitements, avec des traitements standards, mais pour ça, il faut avoir des moyens, il faut avoir un message un peu positif en disant on s'est traité.
Très
oui, pas si court que ça, désolé, mais moi je suis un peu ébahi quand même, parce que j'entends depuis pas mal de minutes, là, on nous dit qu'il n'y a pas de cinquième vague, alors qu'elle semble quand même assez claire, alors qu'il y avait 50 000 cas par jour, nouveaux cas par jour en Grande-Bretagne par exemple. Et l'évolution que j'essaie de parler deux minutes,
de
et l'évolution
France.
Que j'essaie aussi de dresser sur l'Europe du Sud. Ensuite, on nous parle de Raoult de nouveau. Alors, je pensais qu'on avait quand même enfin dépassé ces débats-là. Apparemment, ça revient de nouveau. On nous parle aussi de raison et de prudence, ce qui est effectivement tout à fait intéressant. Moi, je suis favorable à la raison et à la prudence. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution qui présiderait justement à certaines mesures, pas forcément celles qui ont été prises par le gouvernement, mais des mesures dans ce sens-là? C'est quand même assez étonnant. Enfin, j'entends quand même un discours
notamment de
hyper...
ne pas vacciner les enfants.
Et après, on nous dit aussi récemment, là, il y a quelques minutes, si j'ai bien compris, apparemment, il y a un traitement contre le Covid. Alors, c'est étonnant, on va peut-être l'apprendre ce soir.
Il n'y a pas de traitement efficace
alors, autant que le vaccin.
Alors, très court, Gérald Kirzek, qu'est-ce que le traitement dont a parlé ce matin, enfin, ce début d'après-midi, Olivier Véran?
Il y a deux choses. Il y a les prises en charge précoces, et c'est ce qu'on fait, pardon, mais depuis plusieurs mois, en hospitalisant les gens, leur mettant de l'oxygène, de la corticothérapie, article du New England de juillet 2020 qui a révolutionné la prise en charge, les antithrombotiques également, l'Ovenox, enfin, toutes ces molécules pour éviter les thromboses. Ça, c'est la prise en charge standard. Et puis, il y a les nouvelles molécules, parce que là aussi, on attend les molécules miracles, hein, comme le vaccin miracle. La molécule miracle, c'est le molnupiravir, qui est un antiviral, qui est par le laboratoire Merck, qui en a un deuxième par le laboratoire Pfizer, qui sont des molécules qui seront réservées aux patients à risque. Mais encore une fois, j'aimerais qu'on passe ce discours un peu positif de dire si vous avez le Covid, vous n'allez pas en mourir parce qu'on a la possibilité de vous prendre en charge d'ores et déjà et depuis quelques mois.
Merci beaucoup, docteur Gérald Kirzek, médecin urgentiste, directeur médical du site de santé Doctissimo. Verdict sur Twitter, vous êtes 93,8% à dire que le gouvernement n'a pas fait les bons choix. De suite, on va partir du côté du Tarn pour rencontrer des agriculteurs qui ne sont pas contents.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Sophie Audugeli Diaguiro, c'est Tom Conan et ma chère Eva. On part écouter la colère des agriculteurs du côté du Tarn.
Et oui Philippe, les agriculteurs tarnais sont particulièrement remontés et ils comptent bien le faire savoir. Ils ont prévu ce soir 9 actions sur le département pour dénoncer la forte hausse du coût de leurs charges. Pour nous en parler, nous sommes avec Laurent Viguier, agriculteur et secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour Laurent Viguier.
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, détailler un petit peu comment cette hausse des charges s'illustre?
Mais aujourd'hui, on assiste à la flambée des cours des carburants, des engrais, de tout un tas d'intrants. Et le problème qu'on a en agriculture, c'est qu'on ne peut pas répercuter ces hausses sur le prix de vente. Le prix de vente nous est imposé et donc ça pose de gros problèmes de revenus.
Oui, en fait, vous êtes tributaire, c'est ça?
Voilà. Voilà, on demande de nous ce que les assises générales alimentation soient mises en place jusqu'au bout, avec la constitution d'un prix en marche avant, c'est-à-dire que ben, chaque acteur de la filière répercute en fonction des charges qu'il a, un prix de vente qui lui permet de vivre décemment de son métier.
Oui, bien sûr. Et alors, comment on explique aujourd'hui cette augmentation ?
Cette augmentation, aujourd'hui, je ne sais pas. On constate ça partout. Sur toutes nos matières premières et tous nos intrants, nos achats, ils augmentent, voire dans certains cas, on ne peut pas être approvisionné.
D'accord.
Certains produits ne sont plus disponibles.
Et alors, est-ce que ça va avoir un impact sur votre trésorerie ?
Oui, les trésoreries se dégradent très vite. Aujourd'hui, j'ai eu des gens qui sont auprès d'éleveurs de porc et les éleveurs commencent à se demander comment, à partir du début de l'année, ils vont faire pour payer l'aliment pour les animaux.
Et alors, vous avez quand même choisi une date qui est assez symbolique, puisqu'on est à la veille du Black Friday, donc cette opération commerciale annuelle. Est-ce que c'est aussi une manière pour montrer que le sort des agriculteurs, il compte et il a aussi une valeur ?
Ben oui, on est des gens qui entretenons le paysage, qui œuvrent toujours pour offrir des produits de qualité aux consommateurs français, mais il faut qu'on ait un juste retour de ces efforts qu'on fait, et il faut qu'on puisse vivre notre métier.
Bien sûr.
On demande pas que des aides, on demande surtout d'avoir des prix rémunérateurs.
Oui, parce que j'allais vous dire, Jean Castex avait fait quelques annonces fin octobre avec, par exemple, le chèque essence de 100 euros. Ces moyens, ils sont pas assez suffisants.
Mais 100 euros, aujourd'hui, un tracteur agricole, c'est quand on travaille, entre 100 et 200 litres de gasoil par jour.
Voilà. Ah oui.
Aujourd'hui, il est passé de 50 centimes à 1 euro le litre.
Ah oui, absolument. Voilà.
C'est 50 euros par jour, rien que sur le gasoil, quand on travaille. Je fais les 100 euros, c'est 2 jours, quoi. Voilà.
Ah oui, c'est vraiment pas grand-chose.
Comment on fait ?
Et c'est une mobilisation générale des agriculteurs du Tarn ?
Oui, à l'appel de la fédération départementale et des JA aussi.
Eh bien écoutez, on va suivre ça de près, ma chère Eva Fleury.
Eh bien écoutez, je vous remercie Laurent Viguier pour votre intervention. On le rappelle, vous êtes donc agriculteur et secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci.
Et on salue nos auditeurs dans le Tarn, que ce soit Albi, à Castres, à Lavaur, un magnifique département qui fait d'extraordinaires produits du terroir. Je ne sais pas moi, la saucisse de la cône, etc., ça mérite vraiment d'être connu. Dans quelques instants, nos vraies voix du jour, Yves de Paris et Christophe de l'Aveyron, ils veulent parler de nos deux débats. Et Tom Conan et Sophie Audugé resteront avec nous. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et parmi les vraies voix du jour sont restés avec nous Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, et Tom Conan, artiste, essayiste, auteur de Radical, publié chez Albin Michel. Et nos deux vraies voix du jour, on va dire qu'on a une vraie voix des villes et une vraie voix des champs. Bonsoir Yves de Paris.
Bonsoir.
Et Christophe de l'Aveyron, là c'est quand même beaucoup moins urbain. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors on va commencer par notre premier débat et après on fera une courte pause et on fera le second débat du jour. L'Europe est-elle encore capable de gérer la crise migratoire ? Alors le vote est sans appel sur Twitter, vous êtes 95,3% à dire non. Yves, est-ce que vous êtes d'accord avec les auditeurs de Sud Radio quand on voit le drame qui s'est passé dans la Manche avant-hier ?
Ah bah oui, je pense que il n'a pas fallu attendre ce malheureux drame, une fois de plus, pour découvrir l'incapacité de l'Europe à agir pour réguler les flux migratoires. Ça date de Schengen, déjà. Ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, mais comme toute la construction européenne, en réalité. Et en gros, on va créer un espace économique et on va penser que tout le monde pourra vivre en harmonie là-dedans, avec des gens qui vont venir, qui vont rentrer, qui vont sortir comme on veut. Enfin, tout va être beau, ça va être super. Et puis là, on constate que la chose qui n'avait pas été envisagée, c'est ce qu'on appelle une crise. Et on vit en crise depuis les années 80. Donc on cumule les crises, des crises, des crises. Et du coup, il y a des flux migratoires importants. Les gens cherchent à échapper à des guerres, à des conflits, à des perturbations économiques majeures dans leur lieu d'origine. Et ils se réfugient où ils peuvent, hein. Ça, on peut pas l'empêcher, c'est humain. Là où il aurait fallu faire quelque chose dans les années 90, peut-être travailler avec les États du Maghreb, travailler avec les États d'Afrique subsaharienne, de d'Europe de l'Est ou autre. On a tout ce qu'a fait l'Europe, c'est libéraliser le marché. Hein, tout ce qui intéressait l'Europe, c'est qu'il y ait une concurrence. Et puis, voilà où on en est.
Et on a passé le reste, comme on dit, sous le tapis. Christophe, vous êtes d'accord que, quelque part, hein, 95,3% sur Twitter, l'Europe est incapable de gérer la crise migratoire ?
Ah, tout à fait. Dans le sens où, mais, avec les moyens technologiques qu'on a actuellement, moi je suis isolé quand je vois les bateaux partir à la mer, on a assez de satellites pour voir qu'il y a des bateaux qui partent la nuit, et on est incapable de mettre des personnes pour surveiller les plages. Ça me paraît vraiment compliqué. Après, on peut pas leur en vouloir à ces personnes de trouver, essayer de trouver le bonheur ailleurs. Mais le problème, c'est que on vient chez nous pour un idéal qui n'existe plus, parce que la France n'est plus une terre d'accueil où on peut faire fortune, malheureusement. Et le problème, c'est qu'on rajoute de la détresse à la détresse des Français.
Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Tom Conan, c'est vrai que ce que disent tous les deux, Yves et Christophe, par exemple, l'Europe, on parle de Schengen, on a fait quoi ? Une zone de libre-échange, mais pour le reste ?
Oui, alors c'est vrai, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est l'utilisation du terme crise. Et moi je suis pas du tout d'accord avec l'utilisation de ce terme qui est beaucoup trop fréquente et qui du coup ne veut plus rien dire. Il y a une crise dans tous les domaines. Mais en fait, quand on entend crise aujourd'hui, on veut juste dire problème, on veut dire difficulté particulière. Mais une crise, normalement, c'est quelque chose qui se passe pendant un laps de temps relativement limité. Or, on voit bien que là, en matière économique, sociale ou là, s'agissant de la question migratoire, c'est pas une crise puisque ça fait des décennies que les problèmes se posent.
Vous voulez dire qu'une crise, ça tient peu de temps, et là, c'est une crise qui dure depuis des lustres.
En fait, dire crise, c'est un problème, parce que ça permet en fait de cacher le tableau. On se dit, finalement, il y a un problème pendant un certain temps, on va augmenter les ressources en hommes, en argent, etc., de façon à ce que ça soit mieux cadré. Mais donc non, ce n'est pas une crise, c'est bien un problème structurel. C'est un problème structurel qui a bien été rappelé par le premier auditeur, excellemment d'ailleurs, au sujet notamment du fonctionnement même du système économique mondial d'aujourd'hui, effectivement, qui repose quand même sur des fractures économiques majeures dans les différents secteurs de l'économie, et qui font qu'en effet, il y a aujourd'hui des millions, des dizaines de millions, demain des centaines de millions de personnes qui seront amenées à changer de pays, forcées par soit le changement climatique, c'est un élément très important, soit par des guerres, ou soit plus vraisemblablement encore, en tout cas en nombre plus important, par les difficultés économiques. Donc après, en fait, il ne s'agit pas forcément de trouver un Eldorado. Je pense que ces personnes ne sont pas suffisamment ignorantes pour croire que ce sont les Eldorados, mais en fait, entre rien et un petit quelque chose, on préfère quand même encore un petit quelque chose. Et donc, effectivement, c'est la philosophie, entre guillemets, générale du migrant, sans évidemment me permettre de juger ces personnes-là. Mais c'est une décision qui, en soi, reste quand même relativement rationnelle. Et c'est dû, encore une fois, à ces structures mêmes du capitalisme. Et en fait, effectivement, le vrai problème, c'est qu'on croit qu'en développant l'économie, dans des îlots, comme ça a été très bien rappelé, dans des grandes zones, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, etc., ça permettra d'irriguer l'ensemble des pays. Mais il y a toujours des laissés pour compte, sauf que le problème aujourd'hui, c'est que ces laissés pour compte sont très nombreux. Ils représentent en fait des milliards de personnes. Demain, des chiffres dans des proportions encore plus grandes. Et donc, effectivement, les systèmes de garantie, les systèmes sociaux, les systèmes éducatifs dans les pays du Nord avec un grand N, c'est-à-dire les pays riches, ne permettront pas, effectivement, ne sont pas construits en fait pour pouvoir soutenir autant de personnes.
Sophie Audugé.
Oui, je pense qu'on a dressé les uns et les autres un constat qui est absolument partagé. Après, c'est vrai que c'est absolument désolant, et ce que disait Tom est très vrai, c'est-à-dire qu'on a des grands territoires qui se sont développés, qui ont développé de grandes richesses. Ça, c'est très vrai, sauf que eux, ils ferment les frontières, donc ils développent de la richesse qui leur sert eux, et qu'ils ne mettent pas à profit d'un projet humain qui concerne plus large que leur propre nation. Donc du coup, effectivement, on se retrouve nous en France, relativement un petit pays quand même, à recevoir ces gens-là qui pensent qu'on va pouvoir les prendre en charge, et où on les traite, on arrive à ce qu'on a vécu hier soir. Donc il y a quand même, moi je pense, un énorme problème de diplomatie internationale qui est à reconstruire, de manière à ce qu'on évite ces drames-là. Mais je veux dire, on ne pourra pas le faire tout seul, moi je n'y crois pas une seconde.
Est-ce que vous pensez, parce qu'on a parlé de Lampedusa, on a parlé de Lesbos, on a parlé il y a une semaine de la frontière Biélorussie-Pologne, on parle aujourd'hui de Calais, mais avant Calais, c'était Sangatte. Hein. Je rappelle que là, théoriquement, la jungle de Calais a été fermée définitivement il y a 5 ans, en 2016. Et est-ce que vous croyez, je vous le demande de réagir rapidement, Yves et Christophe, qu'on va arriver à sortir de cette impasse, Yves ?
Bah moi, je dirais un peu ce que disait Einstein. Hein. N'attendez pas de ceux qui nous ont mis dans la mouise pour nous en sortir.
Oui.
Non, c'est mort. Je veux dire, déjà, Sangatte, c'était une idée, c'était une bêtise. Encore une fois, ils n'ont pas de solution. Alors voilà, jetons au bébé l'eau du vin avec, ça va régler les problèmes. Non, je
Christophe,
crois rien du tout.
Vous croyez, Sangatte, c'était il y a plus de 20 ans qu'on l'a fermé, c'était en 2002, il y a 20 ans, c'était en 2002, pratiquement 20 ans.
Malheureusement, je l'ai connu, je l'ai déjà connu à l'époque. J'ai 44 ans et ça fait plus de 40 ans que ce problème perdure. Le problème, c'est que chaque gouvernement passe et, comme vous dites, ils mettent la poussière sous le tapis. Je pense qu'il faudra mettre un grand coup de pied au cul à tous ces mecs qui sont dans les bureaux pour trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions qui doivent exister. Soit on ferme complètement les frontières, on les fait hermétiques à 100%, ou alors on ouvre tout, mais on leur donne quand même un minimum de sécurité, parce que malheureusement, rien ne vaut, la vie d'un homme ne vaut plusieurs milliards.
Voilà, alors justement, Yves et Christophe, on vous retrouve dans quelques instants pour parler de notre second débat. Nouvelle mesure anti-Covid, le gouvernement a-t-il fait les bons choix ?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, ils sont restés avec nous. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Tom Conan, artiste essayiste, auteur de Radical, publié chez Albin Michel. Et nos deux vraies voix du jour sont Yves de Paris et Christophe de l'Aveyron. Notre second débat, nouvelle mesure anti-Covid, le gouvernement a-t-il fait les bons choix ? Pour le moment, sur Twitter, vous êtes 93,8% à dire non. Christophe, qu'en pensez-vous ? Je crois que votre épouse est infirmière d'ailleurs.
Et oui, elle travaille à l'hôpital de Villefranche-Jarouer.
D'accord. Alors, on vous écoute.
La solution, eux, ils ont fait, mais les non-vaccinés, ils ont été mis à la porte, comme la loi l'exige. Et eux, tous les services ont été divisés carrément par deux. Et ma femme a été rappelée, souvent, comme toutes ses collègues, ils sont à la limite du burn-out. Voilà.
Même
Oui, et après, comme je dis, c'est que la crise du Covid a été gérée comme la crise de la SAM qu'on a malheureusement chez nous à Decazeville, dans l'Aveyron.
Oui, la SAM, c'est une entreprise, une fonderie qui est en a priori, qui va très mal. Renault
c'est
a décidé
qui va fermer définitivement.
Voilà, qui va fermer définitivement, on peut le dire, liquidation judiciaire, parce que Renault n'a pas voulu la soutenir a priori. On en a parlé, c'était dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus hier.
Eh bien, je vous remercie d'en avoir parlé. Le problème, c'est qu'on a fait une communication sur la femme comme on a fait la communication du Covid. Tout va bien, on est les meilleurs du monde, ne vous inquiétez pas, on va faire plier tout le monde. Ils devaient faire plier Renault, sauf que Renault, malgré qu'on soit actionnaire, ils ont planté tout le monde. Et là, il y a 250 familles qui sont à la rue. Et le Covid, c'est pareil. Il n'y avait plus de Covid, tout allait bien, etc. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'avec le froid, mais malheureusement, ce virus revient. Et c'est les vaccinés, ceux qui ont fait l'effort de se faire vacciner, qui chargent pour les non-vaccinés.
Voilà. Alors, on va faire réagir Yves de Paris. Est-ce que le gouvernement a pris les bonnes mesures pour vous, Yves ?
Non, enfin, moi, je pense que, enfin, de toute façon, pour être tout à fait honnête, je pense que n'importe qui à la place du gouvernement aurait sans doute fait des erreurs. C'est un peu. Bon, ils ont appris au fur et à mesure qu'ils prenaient des décisions, en gros. Hein, donc, ils ont construit la route comme ils ont pu. Bon, voilà. Mais maintenant, moi, ce que je trouve. Qui est très critiquable pour ce gouvernement, c'est sa capacité à mentir. Et alors ça me dépasse. Parce que qu'on fasse des erreurs, tout le monde peut le comprendre. Hein, c'est quand même quelque chose de...
L'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique, comme dirait le proverbe latin, je vous l'ai fait en français.
Voilà, non mais exactement, c'est exactement ça. Et là, c'est là où il y a un problème qui est fondamental, c'est que ils font des erreurs, ils mentent, ils ne se remettent pas en question, et circuler n'a rien à voir. Et la seule réponse que j'ai vue pendant cette crise du Covid, c'était des réponses policières, on va mettre des amendes, on va mettre des amendes, donc on va taper sur le portefeuille, on va taper aussi sur les gens d'ailleurs, on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, etc. Ils n'ont pas été en mesure de prendre des décisions claires, nettes et précises, on vaccine tout le monde, point barre, Et c'est tout, pas rester dans le flou, et alors, puis un coup c'est vrai,
Yves,
un coup c'est pas vrai.
On va faire réagir nos vraies voix, parce qu'il nous reste un tout petit peu plus d'une minute. Tom Connell.
Oui, en fait, non, mais je voudrais juste dire que, évidemment, que l'entêtement dans des mesures qui sont jugées inconséquentes ou insuffisantes ou incomplètes, etc., peut paraître étrange. Mais en réalité, aujourd'hui, je maintiens que je suis désolé, il n'y a pas de traitement aussi efficace que le vaccin, que ça reste à ce jour la seule arme la plus pertinente pour lutter contre le virus qui effectivement reprend. Et il semble y avoir une réelle cinquième vague. En tout cas une nouvelle vague, peu importe comment on l'appelle, 3 epsilon, bêta 32, ça n'a pas d'importance, mais il y a une nouvelle vague, parce qu'à un moment donné, ça a été beaucoup contesté tout à l'heure, y compris par le médecin qu'on a eu à l'antenne, j'ai trouvé ça quand même assez choquant.
Bah non, il n'y a pas eu de quatrième
mais,
vague, donc,
non, mais donc il y a une nouvelle vague, non mais c'est joué sur les mots, il y a une nouvelle vague à ce moment-là, mais comme je pense que vous ne voulez pas faire de référence, vous savez, à ce genre de cinéma français qui était apparu dans les
années
60,
les années 50, fin des
50,
années 50,
voilà, bon, donc c'est un peu moins poétique. Mais donc, il y a une nouvelle vague, et donc en fait, comme il ne s'agit pas là d'une question qui serait par exemple une question économique, une question fiscale, une question culturelle, etc., il s'agit d'un enjeu qui touche à la santé, donc de près ou de loin à la vie des gens. C'est aussi donc pour ça que le principe de précaution est appliqué avec autant, on pourrait dire, d'amplitude. C'est parce qu'on touche à ce qui est le plus précieux. Donc, quelque part, je comprends aussi, j'essaye de me mettre à la place une seconde, de ces personnes qui effectivement doivent juger du sort des gens et éventuellement de leur vie, de leur mort. C'est quand même pas le plus faible des arbitrages.
Le mot de la fin, très court, Sophie Audugé.
Bah, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne comprends pas avec les institutions qu'on a, les autres autorités à peu près à tout, qu'on ne soit pas capable d'être beaucoup plus directif sur un certain nombre de sujets et de mettre ça sur la place publique en permanence en créant des confrontations au sein même de la population. Et moi je reprends le témoignage de l'auditeur dont l'épouse est infirmière.
Christophe.
Voilà, ma sœur est cadre hospitalière aussi. Je veux dire, c'est quand même pas normal qu'on ait une partie de celles qui ont suivi les consignes du gouvernement qui s'épuisent au travail, alors qu'on a et avec un gouvernement qui est pas capable d'avoir des directives pour protéger ses salariés.
Merci beaucoup Sophie Audugé, merci beaucoup Tom Connan. On remercie Yves de Paris et Christophe de l'Aveyron qui étaient nos vraies voix du jour. Bonsoir Jean-Marie Bordry.
Bonsoir Philippe David. Comment ça va?
Très bien. Quand je vous vois,
c'est
toujours un plaisir.
Très solennel. Bonsoir Philippe David. Au cas où on se tromperait de Philippe, ça peut servir.
Si, ça peut servir, oui.
Quel est le menu des vraies voix des entrepreneurs jusqu'à 20h sur Sud Radio?
Ouais, les voix des entrepreneurs ce soir qui vont vous présenter les trophées Optimiste 2021. Ce sont des trophées qui vont récompenser deux types d'entrepreneurs. Alors vous avez d'abord les électrons libres. Tiens, ça aurait pu être un Tom Connan par exemple, au hasard. Ceux qui entreprennent pas forcément en créant une entreprise, mais dans leur vie, avec un parcours atypique et qui n'arrête pas de bouger. Tom, au hasard.
Comme ça, aussi... on croirait que vous parlez de Zébulon sur son ressort.
Un peu. Quelque chose comme ça. Vous avez aussi les trophées culture du rebond, et ça c'est très important. On n'en parle jamais assez en France, parce que c'est vrai qu'on a une phobie par moment de l'échec, alors que les entrepreneurs souvent ils ont besoin de prendre des risques, et fatalement, statistiquement parlant, quand vous prenez des risques, vous avez aussi des chances de vous planter, mais de repartir. Et justement, les trophées Optimiste vous présenteront des entrepreneurs qui ont su rebondir au meilleur moment, et c'est dans quelques instants.
Et c'est dans quelques instants, mon cher Jean-Marie Bordry. Mais tout de suite, conseil de famille, Philippe Rossi, Stéphane Moller.